19 au 21 octobre 2021, l'Office franco-québécois pour la jeunesse organisait la deuxième édition des Rencontres francophones de l'innovation sociale à Paris. La troisième journée de cet événement portait sur la thématique de l'égalité professionnelle après deux précédentes journées consacrées à l'innovation sociale au service de l'inclusion et à l'économie circulaire. La table ronde sur l'égalité professionnelle était présentée par Sébastien Poulet-Goffard de la Compagnie Générale des Autres. En préambule, l'ambassadrice et secrétaire générale de la Conférence mondiale de l'Organisation des Nations Unies sur les femmes, Delphine Haut, a rappelé l'impact de la Covid sur les inégalités de genre déjà présentes à travers le monde. À la suite de cette introduction, la table ronde a permis d'explorer les thématiques du numérique, de la transmission du savoir en politique et du soutien aux femmes entrepreneurs. La table ronde rassemblait Joséphine Pi, chef de projet à Unpower, Emmanuelle Larocque, fondatrice de Social Builder, et Kittery de Villepin, contributrice des Investis.
Bonjour à toutes et tous. On est réunis aujourd'hui pour un deuxième sujet brûlant. Hier, on a travaillé sur l'économie circulaire. Aujourd'hui, c'est l'égalité professionnelle femmes-hommes. Il y a des petites traditions qui s'installent et s'instaurent entre nous. Donc, je vais dire une définition, comme hier. On ne va pas changer les choses qui fonctionnent et qui gagnent. Alors, on a tous, peut-être contrairement à l'économie circulaire, une vague idée de ce que peut être l'égalité de genre, l'égalité femmes-hommes. On pourrait même penser que, en fait, c'est plus un sujet, qu'on y est, en tout cas ici en France. Mais en fait, ça reste un sujet, vous allez le voir. On a d'éminentes spécialistes, des intervenantes aujourd'hui qui vont nous en parler. Vous allez voir que c'est un enjeu bien vivant aujourd'hui. Alors, la définition. On est sur l'égalité des sexes et le principe selon lequel les femmes et les hommes doivent recevoir un traitement égal et ne doivent pas être victimes de discrimination basée sur leur appartenance à l'un ou l'autre genre. C'est un objectif de la Déclaration universelle des droits humains et constitue l'objectif de développement durable numéro 5 de l'ONU. Et c'est un objectif, vous allez le voir, qui est loin d'être atteint en France, mais aussi dans le monde. On va l'aborder aujourd'hui à travers le prisme de l'égalité professionnelle. Et en ouverture de cette conférence, j'invite Madame Delphine Haut à me rejoindre ici, sur ce tabouret. On va même vous donner un micro. Voilà. Madame Haut, vous êtes ambassadrice et secrétaire générale de la Conférence mondiale de l'Organisation des Nations Unies sur les femmes. Vous allez évidemment nous parler de cette conférence et des résultats, de l'impact de cette conférence sur le combat que vous menez. Et puis, peut-être, à la place qui est la vôtre, avoir à nous donner un petit regard panoptique sur cet enjeu d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et je vous laisse la parole. Soyez la bienvenue. Merci.
Merci beaucoup Sébastien, bonjour à toutes et à tous, bonjour à mes co-intervenantes. Merci à l'OFQJ de m'avoir invitée, que je ne connaissais pas cette organisation, donc c'est un bon moyen de... Merci et bonjour aussi à ceux qui sont en ligne, je ne sais pas où est-ce que je dois regarder pour les voir. Mais... donc je vais essayer de ne pas être trop longue parce que je pense que la table ronde va vraiment poser les sujets, mais je voudrais vous parler un peu d'égalité entre les femmes et les hommes, ou plutôt malheureusement d'inégalité. Faire peut-être un petit tour du monde avec quelques chiffres et quelques constats. Alors, je vous préviens, c'est déprimant. C'est vraiment très, très déprimant. Mais ensuite, je vous donnerai quelques billes pour avoir un petit peu d'espoir en vous parlant du sommet que nous avons organisé avec l'ONU il y a juste 3 mois, dont une de nos panélistes a fait partie, Emmanuelle. Et je parlerai aussi un petit peu, puisque la thématique, je crois, de ces rencontres, c'est aussi l'innovation, en quoi on peut innover dans le combat pour l'égalité femmes-hommes. Quelques chiffres aujourd'hui sur les inégalités dans le monde, et je vais aller bien au-delà des questions d'égalité professionnelle, je donnerai aussi quelques chiffres là-dessus, mais je vais parler de tous les combats de l'égalité femmes-hommes. D'abord, un petit rappel, les femmes ne sont pas une minorité, c'est une majorité d'êtres humains sur cette planète, donc quand on parle de parité et d'égalité, c'est quand même un peu la moindre des choses. Ensuite, nous avons fait évidemment énormément de progrès, je ne vais pas remonter à plusieurs millénaires, mais disons au moins depuis la Seconde Guerre mondiale. Nous avons la chance d'avoir dans la plupart des pays francophone, mais pas que, un certain nombre de textes et d'instruments nationaux et internationaux qui promeuvent l'égalité. Aujourd'hui, ce qui manque dans le monde, c'est principalement des financements et la réelle mise en place de ces textes et de ces conventions internationales. Donc, je ne vais pas vous faire un cours de droit international. Simplement, je voulais dire qu'on a beaucoup avancé depuis, disons, 1945 sur l'accès des femmes à l'éducation, l'accès des femmes à la santé, l'accès des femmes à l'alimentation, sur la réduction des écarts salariaux, sur la promotion des femmes à des postes de direction dans le secteur public comme dans le secteur privé, sur la suppression des lois discriminatoires qui existent malheureusement dans de nombreux pays, sur l'accès des femmes en politique, l'accès des femmes dans le monde économique. Mais malheureusement, et là je vais être vraiment en lien avec l'actualité, la crise de la Covid, vous l'avez peut-être lu, entendu, a porté un sérieux coup de frein à la marche naturelle, mais pas complètement naturelle, vers le progrès et vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Les estimations du Forum économique mondial de Davos, qui sont basées sur tout un tas de calculs, avant la crise, nous donnaient un chiffre qui est assez, on va dire, rond et symbolique pour nous marquer. Il nous disait qu'il nous faut encore 100 ans, un siècle, pour atteindre la véritable égalité entre les femmes et les hommes dans le monde. Ils estiment qu'en 2 ans de crise sanitaire du coronavirus, nous avons perdu 36 années supplémentaires. Donc, nous sommes maintenant à 136 ans. Alors, ces chiffres valent ce qu'ils valent, évidemment, mais pour vous dire, toutes les crises n'ont pas le même impact. Elles ont toujours un impact sur les inégalités. La crise de 2008, la crise financière, vous vous en rappelez, avait eu un impact beaucoup plus fort sur les hommes en matière d'emploi, puisque les métiers qui avaient été touchés dans l'automobile, dans la finance, etc., étaient des métiers principalement masculins, alors que tout simplement cette crise a touché des métiers qui sont très féminins, la restauration, l'hôtellerie, le tourisme, etc. etc. Vous avez également entendu parler, je pense, de l'augmentation des signalements de violences conjugales, violences domestiques, violences contre les femmes, donc le fléau des violences de tout type et des féminicides, dont aucun pays n'a réussi à se débarrasser. Donc, pour rappel, en France, c'est toujours environ une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon ou ex-compagnon ou quelqu'un qu'elle connaît. Donc, environ 100 de femmes chaque année. Nous ne sommes, il n'y a pas de bon placement, malheureusement, dans ce classement. Mais pour savoir, par exemple, les pays scandinaves qui sont très, très bien placés en matière d'égalité professionnelle, le Canada aussi qui est très bien placé en matière d'égalité professionnelle, et je vais y revenir, n'ont pas des meilleurs chiffres que la France en termes de lutte contre les violences domestiques, voire ont des chiffres encore plus terrifiants que ceux de la France. Sur la question de l'égalité professionnelle, parlons simplement déjà écart de salaire. Je ne sais pas si vous avez une idée des ordres de grandeur des écarts de salaire. Donc en France, ça n'a pas bougé depuis un certain nombre d'années. En gros, on est tout homme et tout femme confondu à 25% d'écart de salaire, évidemment au détriment des femmes. À compétences égales et à expérience égale, on est à 9%. Mais sachez-le également, au sein des couples hétérosexuels, nous sommes à 42% d'écart de salaire entre les femmes et les hommes. Donc les femmes célibataires gagnent beaucoup plus que les femmes en couple. Je vous invite à lire un excellent livre qui est sorti l'an dernier qui s'appelle « Le genre du capital ». Qui est une très très bonne analyse de la manière aussi dont les inégalités se forment à travers le droit, malheureusement, et aussi au sein du couple et au moment des séparations. Les écarts de salaire dans le monde varient énormément, évidemment. En France, en matière d'égalité professionnelle, on a des lois qui sont beaucoup plus avancées que d'autres. Et notamment, nous avons voté une loi il y a 10 ans, la loi Copy-Zilberman, qui instaure un quota. Et donc là, j'ouvre la question toujours débattue, à ma grande surprise, des quotas. Je ne comprends pas pourquoi on peut encore débattre de l'utilité des quotas. Et donc, on est un des premiers pays au monde à avoir mis en place un quota du nombre de femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Il y a 10 ans, nous avions environ, je crois, entre 20 à 25% de femmes dans les conseils d'administration. 10 ans plus tard, nous sommes à 45%, je crois, entre 42 et 45%. 5%. Nous sommes le premier pays du G7, bien, bien loin devant la plupart des pays, y compris le Canada, y compris devant l'Allemagne, y compris devant les États-Unis, etc. Et c'est aussi un quota, d'ailleurs, qui s'applique dans le secteur public. Je suis moi-même donc ambassadrice, donc quand je travaille non pas pour l'Organisation des Nations Unies, mais le ministère des Affaires étrangères français, donc pour le gouvernement français. Il y a 10 ans, nous avions 12% de femmes ambassadrices dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes à 37%, donc nous avons presque atteint le quota qui nous est légalement fixé par le gouvernement. Et donc, nous payons depuis 10 ans des amendes à nous-mêmes, puisque nous n'avons toujours pas atteint et rempli ce quota de femmes ambassadrices et de femmes à des postes de direction. Quelques chiffres sur l'impact de la COVID, alors très large, peut-être qu'ils ne vont pas vous parler en fonction des pays d'où vous venez. On estime, l'UNESCO estime que à cause de la COVID et à cause des confinements, 11 millions de filles qui allaient à l'école risquent de ne plus retourner à l'école puisqu'elles sont restées à la maison en raison du confinement et elles ont été soit mariées de force, soit gardées à la maison pour s'occuper du foyer. L'éducation, c'est vraiment un des domaines où on a fait le plus de progrès mondialement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a atteint quasiment un taux plein de scolarisation des filles dans l'école primaire et l'école secondaire. Et là, il y a eu un gros, gros impact de la crise. On estime aussi que c'est plus de 240 millions de femmes supplémentaires qui vont tomber sous le seuil de pauvreté. Attention, le seuil de pauvreté ne concerne pas que les pays du Sud, c'est aussi les pays du Nord, c'est aussi les États-Unis, c'est aussi la France, c'est aussi de nombreux pays occidentaux. On estime aussi que 12 millions de femmes n'ont pas eu accès à une contraception de leur choix. Donc pareil, c'est un sujet qui peut nous paraître complètement dépassé ici en France et certainement au Québec. Ça n'est pas un sujet dépassé dans la plupart des pays du Sud, où la contraception, ça n'est pas une pilule que vous achetez quasiment gratuitement à la pharmacie, mais c'est marcher 20 km pour aller au dispensaire et avoir une injection tous les mois. C'est aussi un sujet en France. Il y a de nombreuses femmes qui ne sont pas sorties pendant le confinement pour avoir accès à un avortement. C'est aussi un sujet dans de nombreux pays du monde où les dispensaires, ouais, les hôpitaux ont été reconvertis pour accueillir des malades de COVID. Et toutes les opérations liées aux droits sexuels et reproductifs des femmes n'ont pas pu avoir lieu. L'ONU estime qu'il y a déjà 1,5 million de grossesses non désirées. Vous imaginez le nombre d'avortements dans la plupart des cas illégaux et donc extrêmement dangereux qui peuvent avoir lieu. Voilà un petit peu quelques chiffres extrêmement déprimants. Je vous avais annoncé la couleur. Et maintenant, je vous donne, je change de casquette et j'essaye un peu de redonner un petit peu d'espoir. Effectivement, donc on a perdu encore beaucoup d'années pour atteindre cette égalité avec la COVID, mais quelque part, ça a aussi redonné un petit peu de peps à la communauté internationale en se disant qu'il était impératif de se mobiliser pour donner des doses de vaccins à l'intégralité des pays membres de l'ONU, mais aussi pour relancer un peu la dynamique de l'égalité femmes-hommes. Et donc, c'est pourquoi cette année, à la fin du mois de juin, la France et le Mexique ont co-organisé avec les Nations Unies un grand sommet international sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour vous dire, la dernière conférence mondiale pour l'égalité a eu lieu en 1995. Donc, je pense que certains d'entre vous n'étaient pas nés. C'est un petit peu comme si la dernière COP avait eu lieu en 1995. Ce n'est pas le cas. Mais bizarrement, sur l'égalité femmes-hommes, on ne s'est pas dit que ça valait le coup de faire une conférence mondiale avec tous les États membres de l'ONU. Donc, 26 ans après, ça devait être 25 ans après, mais on a dû reporter à cause du Covid, on a organisé ce sommet mondial qui a eu lieu à Mexico puis à Paris sous l'égide de l'Agence des Nations Unies qui organise, on va dire, gère et supervise les questions d'égalité qui s'appelle ONU Femmes, UN Women. Et la France et le Mexique étaient des pays hôtes. Et qu'est-ce qu'on a fait lors de cette conférence dont je suis la secrétaire générale, donc j'ai assuré en fait l'organisation au titre du gouvernement français. aux côtés de l'ONU. Nous avons mobilisé des gouvernements un peu partout dans le monde. Donc, je demandais tout à l'heure un peu quels étaient les pays qui sont représentés ici et en virtuel. Ça n'était pas un sommet franco-mexicain et ça n'était pas non plus un sommet des pays occidentaux. C'était un sommet où nous avons eu la participation, l'engagement de pays un peu partout dans le monde, dont notamment, évidemment, le Canada sous le gouvernement de Justin Trudeau. Nous avons eu également beaucoup de pays africains qui se sont engagés sur des sujets pas toujours faciles de lutte contre les mutilations génitales, d'accès à la contraception, d'accès à la planification familiale, d'accès à l'avortement. Je pense notamment au Sénégal, je pense au Burkina Faso, je pense au Niger, je pense également hors de la zone francophone, à l'Éthiopie, au Kenya, à l'Afrique du Sud, au Malawi, au Ghana, etc. etc. Nous avons eu beaucoup de pays d'Amérique du Sud. L'Argentine a récemment légalisé le droit à l'avortement, jamais trop tard. Nous avons eu aussi le Chili, l'Uruguay, évidemment le Mexique, les États-Unis sous nouvelle présidence, le Canada, d'autres pays peut-être plus inattendus comme la Géorgie, le Kazakhstan, le Vietnam aussi, qui se sont engagés. Et qu'ont-ils fait, ces gouvernements? Ils ont pris des engagements. Donc, on n'a pas créé un nouveau traité international, on a jugé que ce n'était pas nécessaire. En revanche, on leur a demandé de prendre des engagements très concrets, soit financiers, augmentation des budgets, augmentation des programmes, soit des engagements législatifs, mise en place d'une nouvelle loi sur des quotas, sur la suppression de lois discriminatoires, etc., etc. Donc chacun, évidemment, à la hauteur de ce qu'il peut. Nous avons aussi des entreprises, donc je sais que beaucoup d'entre vous souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat, dans les startups, etc. Donc on a beaucoup de startups qui se sont et d'entreprises, de grandes entreprises multinationales qui ont souhaité aussi investir dans l'égalité femmes-hommes. Alors qu'est-ce que ça veut dire pour une entreprise? Il y a l'aspect interne et l'aspect externe. L'aspect interne, c'est comment est-ce que vous assurez vous-même de ne pas être un facteur reproductif de discrimination au sein de votre organisation. Donc comment est-ce que vous mettez en place des quotas de femmes dans les conseils d'administration, dans votre conseil d'administration, votre COMEX, etc. Comment est-ce que vous promeuvez des femmes à des postes de direction? Comment vous faites en sorte de réduire l'écart salarial entre les femmes et les hommes dans votre organisation? Comment est-ce que vous luttez contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail? C'est un des premiers lieux, en fait, c'est le premier lieu dans le monde de harcèlement sexuel, c'est le lieu de travail. Donc, pour ça, il y a des instruments internationaux, notamment de l'Organisation internationale du travail, etc., etc. Et puis, en tant que grande entreprise, vous pouvez aussi investir dans l'égalité, financer des projets. Et donc, je ne donnerai pas les noms, mais on a beaucoup d'entreprises dans le secteur de la banque, de l'agroalimentaire, de l'énergie, de l'immobilier, de la finance, de tous les domaines qui se sont engagés aussi sur les questions d'égalité femmes-hommes et du numérique, mais je pense qu'Emmanuel va en parler, donc je lui laisserai le sujet là-dessus. On a eu aussi des fondations philanthropiques, des organisations internationales, etc., et on a réussi à lever 40 milliards de dollars d'engagement de ces différentes organisations, donc à peu près un tiers des États, un tiers des entreprises et un tiers des autres types d'organisations. Alors 40 milliards, ça ne vous parle pas, hein, parce que dès qu'on passe au niveau du milliard, on ne se rend pas compte de la différence entre 1 milliard et 40 milliards. Mais simplement, c'est beaucoup parce que, encore une fois, ça fait 26 ans qu'on n'avait pas levé de l'argent vraiment pour l'égalité femmes-hommes. Maintenant, il faut faire un suivi de ces engagements, évidemment. Le Canada s'est beaucoup engagé, notamment sur le financement des organisations féministes partout dans le monde. Donc ça, c'est en termes d'aide publique au développement. Vous avez des associations féministes qui se battent contre les violences, pour l'autonomisation économique des femmes partout dans le monde. Et le Canada est vraiment en pointe avec ce qu'on appelle le fonds égalité pour financer ces associations féministes de terrain, parfois des toutes petites associations où vous avez 2-3 personnes dans des tout petits pays, voilà, très très loin de la France ou du Canada, mais c'est un sujet absolument essentiel. Et voilà, d'autres pays qui nous ont rejoints également. Peut-être je finirai, si je suis encore dans le temps imparti, sur deux thématiques, puisque je voulais aussi parler d'innovation, et je ne suis pas une spécialiste de l'innovation, mais lorsqu'on parle d'égalité femmes-hommes, malheureusement, on parle toujours des sujets qui... on va dire, sont toujours là, malheureusement, depuis des milliers d'années, au premier chef, la lutte contre les violences et la lutte contre le harcèlement sexuel et tout type de violences sexuelles et sexistes. On peut faire de l'innovation là-dessus aussi. Je pense notamment à, en France, l'application AppL, qui a été lancée par une femme qui s'appelle Dirata Ndai, qui est une application donc, que vous pouvez avoir sur votre téléphone qui, en fait, rassemble l'ensemble des données dont vous avez besoin si vous êtes victime de harcèlement ou de violence. Donc, c'est simplement une sorte de centralisation. Ça a été lancé aussi au Chili et dans d'autres pays. Et ça peut paraître tout bête. On peut se dire, mais oui, mais enfin, évidemment, ça existe déjà. En fait, non, ça n'existe pas. Si vous êtes victime de violence conjugale ou de harcèlement sexuel, est-ce que vous savez vraiment où est-ce que vous allez vous adresser? Où sont les ressources policières, judiciaires, financières, associatives? Pas forcément. Cette application, et je donne cet exemple-là parce que je la connais, mais il y en a beaucoup d'autres, est un moyen aussi d'utiliser le numérique et l'innovation pour lutter contre les violences. Mais le sujet de l'égalité, ça n'est pas que malheureusement encore le sujet des violences, de l'autonomisation économique, des écarts salariaux, etc., des droits sexuels et reproductifs. C'est aussi deux sujets d'avenir qu'on a souhaité traiter dans cette conférence que nous avons organisée. C'est la place et l'implication des femmes dans le numérique et le digital. Encore une fois, je crois qu'on va en parler. Et puis, c'est aussi la place des femmes dans la lutte contre le réchauffement climatique, deux sujets d'avenir. Deux sujets qu'on pourrait subir au lieu de comment dire, maîtriser et que si on continue à subir à la fois le réchauffement climatique et la marche naturelle du numérique, on va dire, qui sont reproducteurs d'inégalités sur les algorithmes, etc. Vous en avez entendu parler. Mais la lutte contre le réchauffement climatique, ce sont les femmes qui en sont les principales victimes du réchauffement climatique. 70% des agriculteurs dans le monde sont des agricultrices. Donc, ce sont elles qui traitent la terre, ce sont elles qui, en fait, sont victimes des catastrophes naturelles, des inondations, des sécheresses, etc. Mais lorsque on investit dans les green jobs et dans l'économie verte, etc., etc., en fait, on oublie de se dire qu'il faut former des femmes. Et c'est vrai aussi, par exemple, sur un plan de relance français ou dans d'autres pays, c'est que lorsqu'on va investir dans la formation, il faut penser aussi qu'il faut former davantage de femmes pour ne pas reproduire des inégalités. Et les femmes, en plus, sont, selon tous les sondages, encore plus sensibilisées aux questions environnementales, de lutte contre la pollution, de lutte contre le réchauffement climatique. Elles sont, j'ai envie de dire, dans les pays du Sud, les premières à se battre avec résilience contre ce changement climatique, mais il faut les former, leur donner les moyens aussi de pouvoir lutter contre ces catastrophes naturelles. Un autre exemple qui est valable au Canada et en France, la question des familles monoparentales, qui sont à 85% des femmes qui élèvent seules des enfants. Lorsque vous augmentez le prix de l'énergie, lorsque vous augmentez le prix du carburant, etc., c'est principalement et au premier chef des familles monoparentales qui vont être impactées par ces sujets. Donc, comment est-ce que aussi, lorsque vous mettez en place des politiques économiques ou écologiques, comment est-ce que vous n'oubliez pas ces femmes et ces familles monoparentales? Voilà, c'était un grand fourre-tout. J'avais 10 minutes pour vous parler d'égalité femmes-hommes dans le monde, simplement pour dire que la situation est catastrophique, mais il y a toujours des solutions au niveau local, au niveau régional, au niveau national, au niveau international. Il y a beaucoup de bonne volonté. Il y a aussi une réalisation que tous les sujets, je pense, qui vous intéressent, qui sont le numérique, l'environnement, la santé, l'éducation, tous ces sujets-là sur lesquels on se mobilise beaucoup, qui sont des causes importantes, tous ces sujets-là ne peuvent pas avancer si on ne fait pas avancer l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est absolument indissociable. Et en fait, c'est quelque part la mère de toutes les causes. Parce que si vous avez davantage de filles qui vont à l'école, si vous avez davantage de femmes formées, si vous réduisez les écarts salariaux, etc., etc., vous impactez naturellement les questions d'éducation, de santé, de lutte contre le réchauffement climatique, etc. Voilà, à votre disposition ensuite pour les questions. Je pense que la table ronde va être super intéressante et donnera en plus des bons exemples de ce qu'on peut faire aussi au quotidien et à l'échelle locale et nationale. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire aussi au niveau du ministère et puis surtout aussi porter la parole de la France sur ces questions d'égalité femmes-hommes. La France n'est pas du tout parfaite sur le sujet, mais le Canada non plus, la Suède non plus et aucun pays n'est parfait. On a besoin aujourd'hui, ce sera peut-être le mot de la fin, On ne peut pas travailler tout seul. Ce n'est pas juste les gouvernements, ce n'est pas juste les entreprises, ce n'est pas juste les organisations internationales, ce n'est pas juste les ONG. Et c'est ce qu'on a fait lors du Forum Génération Égalité, cette conférence, c'est qu'on a mis autour de la table et on a fait travailler dans des coalitions ensemble ces différents types d'acteurs. Merci beaucoup.
Un amour, merci beaucoup.
Merci infiniment pour ce panorama.
Pas toujours très positif, et on voit bien que ça porte en germe plein d'initiatives porteuse d'espoir. Je pense qu'on avance. Avant de demander à nos intervenantes de me rejoindre, je voudrais accueillir Amandine de La Ruche. La Ruche, c'est ce bel endroit qui nous accueille aujourd'hui. Ce n'est pas qu'un super lieu de conférence et convivial, c'est aussi un espace de coworking dans lequel la Compagnie Gère les Autres travaille et travaille très bien. Ce lieu porte des programmes un peu en lien avec notre thématique. C'est la raison pour laquelle on se dit, tiens, viens Amandine, dis-nous deux, trois mots là-dessus. Donc, tiens, n'hésite pas à prendre le micro, ouais, et de nous présenter un programme qui s'appelle notamment Les Ambitieuses, hein, c'est ça?
Exactement, il y en a deux. Bonjour à tous. Du coup, comme le disait Sébastien, La Ruche, ce n'est pas juste ici, c'est tous les cinq étages au-dessus. Donc, on a un espace collaboratif. À La Ruche, on ne parle pas de coworking parce qu'on a une vraie vocation à accompagner les entrepreneurs et créer du partage entre eux. Donc, il y a un peu du plus que juste avoir un bureau. On crée du lien entre chacun d'entre eux. Et en plus de ça, donc ça, c'était il y a 20 ans, on a créé la partie coworking, espace collaboratif. Et il y a 10 ans, on s'est dit qu'on voulait aller plus loin. Au-delà d'accompagner des personnes qui faisaient du sens dans leur métier et qui accompagnaient, qui créaient dans l'innovation sociale, on a décidé de créer le métier d'incubation. En tout cas d'aller plus loin et d'accompagner des porteurs d'idées. Donc on a créé différents programmes d'accompagnement en commençant avec deux enjeux. Le premier, c'était d'accompagner des porteurs de projets à impact, donc qui avaient envie de faire les choses autrement. Et deuxième enjeu, c'est d'accompagner des personnes éloignées de l'entrepreneuriat. Donc en fait, d'avoir un impact par les cibles qu'on touchait, parce qu'on s'est rendu compte que il y avait des incubateurs quand on s'est lancé, mais il n'y avait pas beaucoup d'incubateurs qui touchaient des personnes qui étaient vraiment éloignées des accès à l'entrepreneuriat. Donc, c'est un petit peu là-dessus qu'on s'est orienté. On a créé deux parcours en démarrant, en touchant les femmes, qui étaient pour nous la cible vraiment qu'on avait envie d'aborder, de toucher et de voir comment on pouvait arriver à la parité, en tout cas par l'entrepreneuriat. Donc, on a créé notre premier programme qui était Les Audacieuses il y a maintenant 7 ans. Les Audacieuses, du coup, c'est un programme de 9 mois qui accompagne les entrepreneurs tant sur le point de vue individuel que sur le collectif, tant sur le point de vue expertise métier, mais aussi sur la partie soft skills, parce que nous, avant tout, on accompagne beaucoup des gens avant d'accompagner des projets, surtout à ce stade-là où on est porteur d'idées. Et du coup, il y a 7 ans, on a créé ce programme-là. Donc, aujourd'hui, on a accompagné plus de 300 femmes à monter leur projet d'entreprise. On a aussi notre programme Ambitieuse qui va un peu plus loin, donc qui est plutôt sur le stade qu'on appelle, nous, dans notre jargon entrepreneurial, accélération. Donc, si j'ai cru comprendre qu'il y avait des entrepreneurs dans la salle. Si vous êtes un peu plus avancé, du coup, les ambitieuses, il y a une dimension tech. On parle de Ambitieuse Tech for Good, donc il y a la dimension technologique au cœur du projet. Mais c'est le programme un peu après. Et là, pareil, c'est 9 mois d'accompagnement, tant sur la partie individuelle que collective, qui vous accompagne très concrètement à changer d'échelle, alors que les audacieuses, la finalité, c'est de vous amener à aller chercher vos premiers clients. Donc voilà, si certains sont intéressés, n'hésitez pas, je pourrais vous en dire plus, surtout sur la partie pédagogique dont je ne vais peut-être pas parler maintenant. Et peut-être pour vous donner un peu une vision plus macro, à La Ruche, du coup, on a l'enjeu d'accompagner des cibles éloignées de l'entrepreneuriat. Donc aujourd'hui, on a commencé par les femmes, mais aujourd'hui, on touche aussi des personnes réfugiées. On a deux endroits en physique à Saint-Denis et à Montreuil pour accompagner des porteurs de projets réfugiés. Et puis, on accompagne aussi plus largement dans la ruralité. On a 10 ruches depuis la semaine dernière. On en avait 9 avant, avec pour vocation de ne pas uniquement être dans les métropoles, mais aussi de toucher la ruralité. Et puis aussi les habitants des quartiers. Donc, s'inscrire aussi très largement dans toute l'Île-de-France, nous, en tout cas, dans l'action locale qu'on peut avoir, avec beaucoup de partenariats, notamment avec Pôle emploi. Et puis, très largement, dans toute la France aussi, agir très localement pour toucher justement des habitants qui n'auraient peut-être pas accès à l'accompagnement, à l'entrepreneuriat En tout cas, autour d'eux, il n'y a pas vraiment de structure. Donc, c'est un petit peu l'idée de la ruche. Voilà. Et l'OFQJ, bien sûr. Ouais, et bien sûr, l'OFQJ est partenaire des Audacieuses depuis quasiment le démarrage. Voilà, et du coup, offre tout un accompagnement et intervient sur différentes étapes. Remise de prix, évidemment, à la clôture, mais tout du long, depuis le jury d'ailleurs. Le jury de notre nouvelle édition aura lieu la semaine prochaine pour choisir nos 15 lauréates. Voilà. Et Émilie est une de nos lauréates de la 6e édition, effectivement. Ouais. C'est ça. Donc, il y a une vraie dynamique, voilà, vous le voyez, de cercle vertueux où on a toujours des personnes qui reviennent et qui restent dans l'écosystème.
Mandine, c'est top. Merci beaucoup pour ton intervention. Je vais à présent demander à nos intervenantes de me rejoindre. Emmanuelle, Joséphine, Kétri, venez, asseyez-vous. Hop, je vais mettre le micro. Alors, merci d'être là. On est ravis de vous accueillir. J'ai à mes côtés Emmanuel Larocque. Salut Emmanuel.
Bonjour.
Emmanuel, tu es fondatrice et directrice générale de Social Builder, qui est une organisation au service du parcours des femmes dans le numérique. Tu vas nous en parler tout à l'heure. Joséphine, bonjour.
Bonjour.
Tu es responsable France-Europe d'Empower, qui est un réseau international d'organisations dédié à l'entrepreneuriat et à l'autonomisation sociale et économique des femmes, c'est ça ?
Oui, tout à fait.
Tu nous en parleras également. Kétri, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Kétri, alors j'ai noté animatrice des investis, mais tu liras peut-être plus précisément ton titre, ta fonction, ton poste. En tout cas, c'est un programme d'entraînement à la pratique politique pour féminiser le monde et la pratique politique, c'est bien ça ? Tu vas nous parler
exactement
de ce point. Parfait, ok. J'ai envie de commencer avec Joséphine sur un enjeu d'entrepreneuriat, et puis après on ira peut-être sur les enjeux numériques, et puis ensuite sur les enjeux politiques, ça vous va ? Joséphine, tu travailles chez Empower, qui donc favorise l'entrepreneuriat féminin. Quel enjeu autour de l'entrepreneuriat féminin ? Pourquoi est-ce qu'il faut favoriser l'entrepreneuriat féminin ?
Oui, merci beaucoup. Alors déjà, avant de répondre à ta question, je voulais commencer par une petite digression. Désolée, c'est pas terrible, mais juste pour vous dire que chez Empower, on ne parle pas d'entrepreneuriat féminin, parce qu'en fait, parler d'entrepreneuriat féminin veut dire qu'il y a une forme d'entrepreneuriat spécifique des femmes, qui est quelque chose en fait contre lequel on essaye de lutter. En fait, il n'y a pas de forme d'entreprendre spécifique des femmes. Par contre, il y a des freins que rencontrent les femmes, il y a des difficultés spécifiques que rencontrent les femmes quand elles se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, on peut parler de femmes qui entreprennent, de femmes entrepreneurs, entrepreneuses, etc. Voilà.
Compris.
Et pour faire un état des lieux, alors je pense qu'il y a deux sujets, il faut peut-être distinguer. Nous, on est à la fois en France et à l'étranger, donc pas mal dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Le constat est très différent en fait quand on s'adresse à ces deux zones géographiques. Peut-être pour commencer par la France, et ça vaut aussi pour les pays qu'on dit développés, le constat en France, c'est que les femmes sont minoritaires dans l'entrepreneuriat. En France, aujourd'hui, on est à peu près à 33%. Donc c'est en augmentation, mais ça reste quand même très faible, et le chemin reste assez long à parcourir pour atteindre une parité dans ce secteur. Pourquoi est-ce que les femmes entreprennent moins en France ? Alors il y a plein de biais, et puis je pense qu'on y reviendra ensuite. Quand on s'adresse vraiment, enfin quand on s'intéresse à des pays plus à l'international, des pays en développement, et c'est comme ça qu'on a commencé. En fait, Empower a été fondé en 2013 et on a commencé nos actions en intervenant à l'étranger. On a commencé en France à partir de 2016. En fait, le constat à l'étranger est totalement inverse. On a en fait une proportion de femmes qui est majoritaire dans l'entrepreneuriat, ou ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. En réalité, dans le jargon, on appelle ça aussi des activités génératrices de revenus, parce qu'il s'agit d'entrepreneuriat plus de survie. Et donc, dans ce cas-là, les femmes sont largement majoritaires. Par exemple, là où les femmes sont majoritaires dans l'entrepreneuriat, c'est en Afrique principalement. Donc, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois quasiment 30 ou 40 millions de femmes entrepreneurs en Afrique. J'ai peur de dire une erreur, donc je vérifierai ensuite. Mais voilà, les femmes sont majoritaires en tant qu'entrepreneurs dans ces pays-là. Et parce qu'en fait, elles n'ont pas accès au marché de l'économie formelle. Et donc, elles se lancent dans l'entrepreneuriat. Donc, on va parler principalement de petit artisanat, d'agriculture, etc. Pour générer des revenus, pour avoir accès à une activité de subsistance. Voilà, donc pour peut-être, dans un premier temps, remettre le contexte quand on parle d'entrepreneuriat en France et en France, dans les pays développés, dans les pays en voie de développement. Donc, un constat qui est quand même assez différent.
On repère hein, qu'il y a une forme d'inégalité, en tout cas une répartition qui n'est pas forcément égale entre femmes et hommes par rapport à l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui explique cette différence ?
De la même manière, en fait, les constats vont être assez différents qu'on parle des pays développés ou des pays en développement. Alors, moi, je travaille principalement sur la France, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup étudié sur la France et en Europe. Quand on parle des freins à l'entrepreneuriat, en fait, on a deux types de freins. On a des freins qui vont être externes, donc qui sont liés à la manière dont fonctionne le secteur, l'écosystème de entrepreneurial. Un des premiers freins va être l'accès au financement. Aujourd'hui, en Europe, moins de 10% des financements accessibles sont obtenus par des femmes qui ont fondé ou cofondé une entreprise. Donc, bien sûr, qui dit difficulté d'accès au financement implique plein d'autres difficultés. On a mené une étude en 2019 sur les femmes et l'entrepreneuriat social en Europe, dans laquelle on a montré que 80% des femmes qui se lançaient dans l'entrepreneuriat le faisaient sur fonds propres. Ce qui veut dire aussi que ça crée un biais de diversité au sein du secteur, parce que ça veut dire que, en fait, il faut avoir les moyens de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, l'accès au financement est évidemment un des freins principaux.
La difficulté d'accès au financement, c'est quoi ? C'est que finalement, la démarche est faite, mais les partenaires financiers ne sont pas là, refusent, ou que finalement, les femmes elles-mêmes ne font pas la démarche d'aller chercher du financement externe et du coup, se lancent sur fonds propres. C'est quoi le...
Oui, les deux, en fait. Il y a vraiment des stéréotypes, une forme de discrimination de la part des institutions financières. Et puis là, on parle à la fois des banques, des fonds d'investissement, etc. Alors, c'est plutôt, en fait, des stéréotypes qui sont ancrés et qui sont reproduits. Alors, voilà, je pourrais vous citer plein d'exemples, mais le nombre de fois que des femmes sont venues nous voir en nous disant, quand je suis allée à la banque avec mon stagiaire, qui est un homme, on s'est adressé à mon stagiaire en pensant que c'était lui qui était le fondateur. Voilà. Et ça, c'est des exemples qui sont extrêmement, extrêmement courants, malheureusement. Et du coup, le deuxième biais que ça crée, c'est que je pense qu'il y a une forme aussi d'autocensure où les femmes, lorsqu'elles se lancent, ont tendance à se dire qu'elles ne vont pas aller chercher du financement externe. Donc un peu les deux.
Ok. Et du coup, par rapport à tout ça, à ces enjeux que tu viens de bien décrire, quelle est la réponse du coup d'Empower?
Oui. Ouais. Juste du coup pour finir là-dessus, parce que j'ai parlé que des financements, donc qui est effectivement un frein. Après, dans les freins externes, il en existe plein d'autres, le manque d'accès au réseau, et puis sans même parler des freins juridiques et législatifs, hein, quand dans les pays. En Afrique de l'Ouest, dans lesquels on intervient, 80% des femmes entreprennent dans l'économie informelle parce qu'elles n'ont pas accès aux moyens de production, parce qu'il y a des freins législatifs, etc., qui les empêchent. Donc ça, c'est des freins un peu, j'ai envie de dire, pas concrets, mais en tout cas presque administratifs et juridiques. Et après, il y a toute une partie de freins qui sont plus internes, entre guillemets, qui vont tenir de la légitimité, du manque de légitimité. Donc, ça peut être ce dont on parle quand on parle du syndrome de l'imposteur, qui se retrouve plus facilement, enfin plus souvent chez les femmes, l'impression de manquer de connaissances, de compétences, la peur de se lancer, etc. Le manque de confiance en soi, donc c'est des choses dont on parle fréquemment, et c'est vrai qu'ils sont encore renforcés par un secteur qui déjà véhicule pas mal de stéréotypes et qui est encore ultra masculin.
Ouais, d'accord. Mais du coup, cette peur de se lancer que tu viens d'évoquer, est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est une représentation, quelque chose qu'on peut comprendre ou savoir connaître de la part des femmes, ou est-ce que c'est une réalité, ce phénomène-là?
Je pense que c'est comme l'exercice de la fiche de poste. Hein. Enfin, je ne sais pas si vous avez entendu ça, mais un homme qui voit une fiche de poste passer va y répondre, je crois, quand il coche à peu près 40% des cases. Une femme n'y répondra que si elle considère avoir au moins 80% des compétences requises. Voilà, donc en fait, c'est le même sujet quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que beaucoup de projets qu'on a accompagnés ont attendu très longtemps avant de se lancer parce qu'il fallait que tout soit parfait, il fallait que voilà, il n'y ait pas de risque d'erreur, etc. Alors que probablement un de leurs congénères masculins l'aurait fait plus rapidement. Alors certes en faisant des erreurs, mais c'est aussi comme ça qu'on apprend, qu'on avance, etc.
Ok. Et du coup, donc Empower propose des programmes qui visent justement à réempowerer les femmes, à leur donner confiance, de la légitimité, à sortir du syndrome de l'imposture. Comment est-ce que vous faites par rapport pour lutter contre ces phénomènes-là?
Ouais, alors on a du contenu effectivement méthodologique sur ces sujets-là. Ça existe et on a beaucoup travaillé dessus. Donc on a à la fois un accompagnement qui est plus technique entre guillemets, donc sur la création d'entreprise, mais on va avoir aussi un accompagnement sur des questions plus effectivement de posture et de prendre confiance en son potentiel entrepreneurial. Après, en fait, on l'a évoqué rapidement, mais je pense que ce qui est le plus fort dans des parcours d'accompagnement, dans des mouvements, et je pense que Kitri vous en parlera aussi, et notamment quand on monte des programmes qui sont dédiés aux femmes, c'est vraiment les liens, les connexions qui se créent entre les femmes. Et ça, pour moi, c'est la vraie source justement d'empowerment. Comme tu dis, c'est vraiment de faire en collectif et d'être au sein du collectif. Pour moi, ça, c'est vraiment la source première d'autonomisation, en tout cas, de ce qu'on peut proposer.
Et du coup, en termes de collectif, alors qu'est-ce que vous créez? Comment vous vous y prenez du côté d'Empower? Vous créez des programmes avec des promotions? Il y a un petit côté alumni? Comment est-ce que vous faites pour créer ce collectif-là, cet entre-soi, entre guillemets?
On a pas mal de manières. En fait, je pense que cette notion de communauté, de collectif, elle se retrouve dans tous les programmes et tous les parcours qu'on mène. Peut-être pour vous en dire un peu plus sur ce qu'on fait, donc en France et à l'international. Donc aujourd'hui, on est dans 5 pays. On est au Niger, en Côte d'Ivoire, en France, au Burkina Faso et en Éthiopie. Donc on a des équipes dans chacun de ces pays. On intervient en fait selon trois piliers d'action. Le premier qui est d'accompagner les entrepreneuses. Donc on a différents parcours d'accompagnement qui s'adaptent en fonction du niveau de maturité des projets qui sont portés. On a un deuxième axe qui est justement d'animer et de fédérer des communautés de femmes entrepreneuses, futures entrepreneuses. Et donc là, on a beaucoup d'outils. Alors, ça va être des rencontres, ça va être du partage, ça va être des rencontres inspirantes, des ateliers de co-développement, de la mise en réseau, etc. Et ça, on souhaite vraiment créer, on en a d'ailleurs dans tous les pays dans lesquels on est, en fait, c'est des communautés qui se créent, qui se développent de manière organique, qui sont fondées, enfin, qui sont animées par des femmes qui veulent s'engager et qui veulent proposer des choses sur leur territoire. Et après, troisième pied de nos activités, qui est plutôt un axe de sensibilisation, où là, on va s'adresser au grand public pour mettre en avant des parcours de femmes inspirants et aussi pour donner de la visibilité à celles qui créent, qui entreprennent, qui font bouger les choses. Et en fait, vraiment, dans ces trois piliers, la notion du collectif, elle est essentielle, que ce soit dans l'accompagnement, parce que l'accompagnement, alors, on a des formats individuels, mais aussi principalement collectifs. Dans l'animation de communauté, ça, c'est clairement le, 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 l'identité propre de cet axe de nos actions. Et même quand on parle de sensibilisation, alors là, en France, c'est la deuxième année, on organise un grand festival qui s'appelle le Festival Empower. En septembre, et pareil, c'est un moment collectif qui est hyper fort, qui permet de vraiment créer des liens, de donner de l'espoir, de s'inspirer aussi. Et voilà. Donc je pense que dans cette rubrique, cette notion de collectif est très importante.
Il faut aller au festival, c'est vraiment génial.
Merci, Kitri. Et du coup, Joséphine, comment est-ce que, alors, tu as évoqué la dimension très internationale, hein, de vos activités. Pour nos collègues africains qui nous regardent, hein, ils nous regardent, comment est-ce qu'on peut contribuer, agir, vous rejoindre? Et est-ce qu'on peut vous rejoindre même si on est un homme?
Oui, bien sûr. Bah, dans nos équipes, on a évidemment des équipes mixtes. L'accompagnement est dédié aux femmes, donc on n'accompagne que des femmes entrepreneurs. Par contre, que ce soit dans nos équipes de formateurs, de formatrices et dans nos équipes salariées, on a évidemment des équipes mixtes. Sur la question comment agir, alors c'est toujours une question soit avec une réponse très simple, soit avec des réponses plus compliquées. Je pense que vraiment, la première réponse que je donnerais, c'est de se poser la question de comment est-ce qu'on déconstruit aussi nos propres stéréotypes et comment on prend conscience du fait que nos propres stéréotypes peuvent affecter les trajectoires des uns et des autres. Voilà, donc ça, je pense que c'est peut-être une première action qui peut être facilement mise en place au niveau de tout un chacun. Après, pour s'engager véritablement dans Empower, alors on a des parcours de bénévolat, notamment on intervient dans des alors ça c'est plutôt en France, mais on intervient dans des établissements scolaires pour sensibiliser les jeunes aux questions d'égalité femmes-hommes typiquement. Donc ça, c'est des parcours qui sont portés avec des équipes de bénévoles. On a aussi beaucoup de bénévoles dans le cadre de grands événements. On parlait du Festival Empower, donc là on a eu deux éditions à Paris, mais la prochaine est au Niger, à Niamey, au mois de mars. Donc voilà, donc c'est des moments où effectivement on a besoin de beaucoup de monde. Après, en termes d'engagement, je pense que voilà, si vous avez des compétences, une expertise que vous voulez mettre à disposition, évidemment on a toujours besoin de personnes qui souhaitent s'engager, qui souhaitent accompagner. Qui souhaitent accompagner les femmes. Et après, alors je ne sais pas ce que vous faites individuellement, mais je pense si vous organisez des événements, des tables rondes, faire attention à des sujets de parité, aller chercher en fait des femmes qui font des choses qui vous inspirent, les mettre en avant, voilà. Donc tout ça, c'est des choses qui contribuent aussi à faire émerger un secteur qui est un peu plus différent, avec des figures de représentation qui sont un peu plus mixtes et diversifiées.
Top. Merci beaucoup, Joséphine. Emmanuel, c'est à toi.
Bonjour. Bonjour, bonjour à tous et toutes.
Emmanuel, tu es fondatrice carrément, hein, de Social Builder. En partant d'un chiffre peut-être, alors qu'on sait que le secteur du digital et du numérique explose depuis plusieurs années, seulement 27,9% des employés du secteur sont féminins. Pourquoi ? Qu'est-ce qui explique ça ?
Alors, déjà, merci beaucoup de cette invitation et c'est super que vous ayez une de vos journées qui est dédiée à ce sujet de l'égalité. Et comme l'a dit Delphine, c'est quand même un sujet qui doit traverser toutes nos réflexions de changement sociétal. Donc voilà, c'est bien d'être là aujourd'hui. Donc nous, on agit sur un levier spécifique qui est la relation entre l'égalité professionnelle et le numérique. Donc pour redonner quelques chiffres, parce que c'est toujours bien d'introduire, même si Delphine nous a déjà donné un tableau assez quand même prégnant, le numérique, c'est une transformation de tous les emplois. Donc d'ici 2035, il y a à peu près 85% des emplois qui vont soit émerger, soit se transformer, soit disparaître. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'obsolescence des compétences, on y est tous confrontés, qu'on soit en emploi ou pas en emploi, et que les étudiants qui sont en train de passer leur diplôme aujourd'hui vont certainement devoir se reformer dans quelques années. Donc, l'entrée, c'est de dire, face à cette manne d'emplois qui va être croisée et ces opportunités dingues que va amener cette transformation profonde de la société, on parle de l'économie, on parle de la machine, mais c'est la société profonde qui se transforme dans ses usages, en fait, les femmes ne sont pas là. Elles sont utilisatrices, et encore, ça dépend si elles sont équipées, si on les a accompagnées accompagner pour avoir des compétences qui permettent d'interagir avec les réseaux sociaux, la machine, un ordinateur. Mais au final, dans le monde, aujourd'hui, c'est 400 millions de plus de femmes que d'hommes qui n'ont pas accès au numérique. Donc, c'est très important de se dire que si on veut travailler sur l'égalité, il faut embarquer du coup les femmes sur cette question de la transformation. Si je fais un petit focus rien qu'en France, donc on peut se dire « Ah, mais 27%, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. On peut discuter ce chiffre. Hein. Aujourd'hui, c'est 80 000 postes ouverts rien qu'en France, 900 000 postes au niveau de l'Europe. Et donc, sur ces 80 000 postes d'ouverts, purement dans la technique, là, si on va sur les métiers techniques numériques purs, développement et les métiers, on va dire, autour de la programmation ou des interfaces, là, on tombe à 16% de femmes, d'accord ? Donc, il y a 84% d'hommes qui vont obtenir ces postes aujourd'hui. Ça, c'est la réalité, parce que les femmes ne sont pas dans des parcours de formation qui leur permettent d'accéder à ces métiers. Donc, quand on parle d'égalité, d'égalité face à l'avenir aujourd'hui, on doit parler du numérique.
Du coup, on en parle ? Là.
Alors, comment on en est arrivé là ?
Ouais.
Paf. Donc, comment on en est arrivé là ? Alors, ouais. ce qui est fondamental, c'est de dire que ce chiffre-là, en fait, c'est un chiffre international. Il y a à peu près un quart des jobs aujourd'hui dans le monde, dans le numérique, qui sont détenus par les femmes. Et si on s'intéresse à ces métiers du développement pur, donc pas tous les métiers connexes, là, on va tomber à 6%. Donc, cette transformation, cette réalité des inégalités, elle est globale. Mais l'histoire de l'informatique a commencé avec les femmes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les années 40, quand on a commencé à développer les premiers programmes informatiques, on est allé chercher les femmes. L'armée est allée chercher les femmes pour affiner la précision des armes, la précision des outils de guidage. Les femmes étaient là, elles ont développé les premiers programmes, elles ont envahi les centres d'informatique, et jusqu'aux années 80, elles ont été, pas complètement à parité, mais pas très loin. Et depuis les années 80, il y a eu un basculement très important, qui est du coup un basculement dans les représentations. Les grands industriels ont commencé à s'intéresser justement à équiper de PC les foyers, de consoles vidéo, de donner accès à des consoles vidéo pour généraliser, pour aller tout ce qui est jeux vidéo, voilà, le développement de cette filière. Et en fait, on s'est adressé principalement aux hommes. Et là, il y a eu un énorme basculement, ce qui s'est fait dans les usages. On a commencé à s'intéresser aux petits garçons, à leur parler d'informatique. Et aussi dans les pratiques de ces entreprises, les grands industriels ont commencé à profiler, un petit peu se dire, bon, au final, un bon informaticien, ce serait quoi ? Et donc, ils ont commencé à créer des personas de un informaticien, c'est plutôt un homme, qui va avoir tel type de comportement, tel type d'aspiration et de talent. Et donc, ils ont recruté massivement des hommes, même si les femmes étaient déjà dans les entreprises. Et progressivement, elles sont devenues indépendantes. Progressivement, elles sont devenues, du coup, elles ont eu moins accès à certains postes et elles se sont mises à leur compte. Et elles ont disparu de l'entreprise et elles ont disparu, du coup, du champ aussi des intervenantes, parce que c'est très important, cette question des représentations. On ne les voyait plus. Et donc, progressivement, les petites filles se sont plus intéressées. Donc, tout ça, en fait, ça a créé la situation qu'on connaît en quelques années. Et c'est important de se dire que si ça a été construit, ça peut être déconstruit.
Mais Emmanuel, excuse-moi, ce n'est pas une question qu'on a préparée d'ailleurs, donc elle est un peu spontanée comme ça, mais pourquoi est-ce que ces ingénieurs-là qui travaillent, ces profilers de futurs informaticiens créent des personas et du coup font que ces personas, ce sont des personas masculins? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'il s'agit d'un complot ou de... Qu'est-ce qui préside
non,
à...
absolument pas.
Qu'est-ce qui préside à ça?
C'est les pratiques RH, c'est-à-dire que dans les années 80, quand on a commencé à créer les filières professionnelles de l'informatique, on allait voir les grandes sociétés, les grands recruteurs, c'est-à-dire les grandes sociétés qui faisaient du recrutement en masse ou qui travaillaient sur ce serait quoi en fait un bon informaticien ou une bonne informaticienne. Et ils se sont basés sur des données et des questionnaires adressés exclusivement aux hommes. Et ils en ont conclu qu'au final, c'était essentiellement les hommes qui aujourd'hui allaient être les bons profils. C'est difficile à dire, mais ça n'a pas été intentionnel, mais dans les choix, et c'est pour ça que la question des stéréotypes dans nos choix, on ne s'est pas posé deux fois la question de savoir s'il y avait déjà 40% de femmes ou pas, on s'est avant tout adressé des hommes, et du coup on a profilé un bon informaticien, c'est un homme blanc de 25 ans qui a fait un bac plus science, un bac plus 5 en informatique, point barre.
C'est ballot. Delphine.
Non, pour ajouter, parce que c'est marrant, on ne s'était jamais parlé de c'est quoi l'histoire. Comment est-ce qu'un métier devient masculin ou féminin? Et c'est très intéressant. Et pour rebondir sur votre question, Sébastien, et compléter l'histoire, effectivement, au début, le métier d'informaticien, c'était un métier de dactylo. Donc, c'était des femmes, ce n'était pas bien payé, il fallait savoir taper vite. Il fallait voir consciencieuse, qu'on considère que être consciencieux, méticuleux, c'est une qualité intrinsèquement féminine. Et lorsque le métier d'informaticien s'est professionnalisé, a demandé de plus en plus de compétences, comme tous les métiers, lorsqu'un métier se masculinise, il devient plus important et plus cher sur le marché du travail, il rapporte plus. Quand un métier se féminise, il est dévalorisé sur le marché du travail. Et avec tout ce qu'a raconté Emmanuel. Mais il faut savoir que ce n'est pas le cas partout. Par exemple, en Asie du Sud-Est, et notamment en Malaisie, le métier d'informaticien est encore très, très féminisé. Parce qu'on considère encore que ce sont des qualités féminines dont on a besoin, qui sont la régularité, la méticulosité, l'attention aux détails, etc., etc. Et non pas comme peut-être dans la Silicon Valley ou en France, où désormais un développeur, un informaticien, c'est quelqu'un qui est un peu un génie fou, qui a de l'inventivité, de l'innovation, etc., qu'on ne considère pas comme des qualités féminines.
Ok, merci beaucoup.
C'est un faisceau et aussi, il faut savoir que juste dans les années 60-80, il y a un certain nombre de formations qui n'étaient pas accessibles aussi aux femmes, et notamment des formations scientifiques de haut niveau. Et avec la professionnalisation du métier, du coup, on est allé chercher ces hommes qui sortaient de ces écoles de mathématiques et ces écoles scientifiques. Tout un tas de facteurs qui fait qu'aujourd'hui, on a perdu les femmes, quoi.
Ouais. Qui est intéressant du coup d'identifier pour déconstruire et faire en sorte que dans l'évolution du secteur on puisse rectifier un petit peu le tir. C'est un peu ce que vous faites, non?
Alors,
c'est Social Builder.
Ouais, alors du coup nous on a une approche qui est de créer des parcours sans couture pour permettre justement de parler aux femmes de ces métiers d'une manière qui les engage, de travailler le projet professionnel et après de construire des parcours de formation qui leur permettent d'aller dans des métiers extrêmement différents, le faire main dans la main avec bien sûr les entreprises, mais aussi des acteurs de l'emploi et des territoires, et aussi d'utiliser dans certains parcours le digital pour des femmes qui veulent créer une entreprise. Donc, on a parlé de la création d'entreprise. C'est tout aussi important de travailler sur le parcours professionnel pour accéder à l'emploi ou aider les femmes qui ont besoin de mieux comprendre la technologie ou le digital au quotidien pour vendre leur production et de manière à créer leurs entreprises et d'être autonomes et de bénéficier pleinement de tout ce que le numérique peut offrir.
Comment vous faites ?
Alors, nous, on travaille sur ce sujet depuis 10 ans. On a accompagné plus de 62 000 femmes aujourd'hui. Ce sont du coup des parcours qui sont c'est des parcours en fait d'accompagnement formation qui intègrent des professionnels du numérique. Donc, on a beaucoup parlé de l'importance d'avoir tout un écosystème autour d'une personne qui se reconvertit ou autour d'une personne qui va créer un projet. Donc, on embarque des professionnels du numérique, on embarque des coachs, des professionnels aussi bien sûr de la formation technique et aussi des personnes qui travaillent sur toutes les autres formations, je dirais humanistes et relationnelles, pour pouvoir créer ces parcours. Donc, c'est des parcours, ça peut être par exemple un parcours qui s'appelle Adabot, qui est un chatbot qui permet à des femmes de découvrir le métier jusqu'à être mise en relation avec un professionnel du numérique qui va lui parler du métier au quotidien pour l'aider un petit peu à se faire une représentation un petit peu plus juste et moins stéréotypée. Ça va d'un parcours d'une semaine d'immersion dans le numérique, on va présenter plein de profils, via des tests, on va pouvoir un petit peu identifier ce qui pourrait correspondre le mieux aux appétences et un petit peu au parcours de la personne pour ensuite leur proposer des programmes de formation dans tout l'écosystème et tous les types de formations qui existent. Et donc, sur ces types de parcours, notamment ce parcours Horizon Numérique, on a 90% des femmes qui, après, vont continuer dans le numérique. Donc, si on présente les choses et on accompagne vraiment les personnes, elles se font une idée beaucoup plus attractive et plus juste de ce qu'elles pourront offrir et ça crée de l'envie. Et après, on a des parcours de formation qui vont de la demi-journée à l'optimisation de son profil LinkedIn jusqu'à des parcours d'accompagnement en apprentissage de 18 mois pour être développeuse ou data manager. Donc, on fait des parcours extrêmement différents et à chaque fois, c'est soit une rencontre avec une entreprise qui a envie de s'impliquer sur le sujet et on monte des parcours avec cette entreprise. Donc, je ne vais pas les citer, mais c'est surtout des grandes entreprises. Ça va être bénéficier aussi et essayer de tirer parti des politiques publiques d'accompagnement à la mobilité professionnelle comme les plans d'investissement compétences. Donc, ça, c'est spécifiquement en France où là, on va proposer des gros projets pour accompagner 200, 300, 400 femmes d'un coup sur certains types de métiers. Voilà. Je sais très précisément.
Ouais, ouais, mais c'est bien, c'était précis. Et du coup, ça me fait penser à, sur ces enjeux-là d'éducation, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, c'est voilà pour l'entrepreneuriat, pour les femmes, c'est vrai pour la politique aussi, mais sur ces enjeux du numérique, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire du côté de l'école? Qu'est-ce qui est fait du côté de l'école? Parce que c'est là que ça se passe, pour sensibiliser les élèves, mais aussi peut-être les profs qui sont peut-être aussi engoncés dans des représentations qui font qu'ils ne vont pas guider les jeunes filles vers l'entrepreneuriat ou le numérique. Qu'est-ce qu'on peut faire?
Alors nous, on intervient... Social Builder s'intéresse aux actifs, donner l'opportunité aux actifs de vraiment tirer le profit de ce qui se passe aujourd'hui, maintenant, dans cette révolution numérique de l'économie. Maintenant, bien sûr, on est dans une chaîne d'acteurs et c'est très important de penser le sujet, bien sûr, plus en amont ou plus en aval. Sur la question de l'éducation, il y a une réforme. Je ne sais pas si vous avez entendu cette réforme, en fait, des choix d'options à partir de la première, avec cette nouvelle option qui est une option de choix d'informatique. Et au final, plus on introduit tôt, plus on engage tôt à choisir autour de notions qui ne sont pas très habituelles, plus on perd les filles. Donc aujourd'hui, on a perdu beaucoup de filles avec ces choix un peu contraints d'options autour de l'informatique. Je le dis parce que ça va être, à mon avis, un sujet très important, parce que si on ne prend pas ces options, après, on s'écarte progressivement de toutes les, on va dire, les classes préparatoires et même de toutes les filières de recrutement post-bac qui sélectionnent en fait sur certaines compétences techniques de plus en plus. Donc, on doit réfléchir à une façon proactive, voire même vraiment s'intéresser à des accompagnements spécifiques pour les femmes et les jeunes filles, pour qu'elles s'intéressent et pour pouvoir rentrer dans les usages, dans des usages qui leur parlent, travailler avec leur téléphone portable qu'elles utilisent à partir de 12-13 ans au quotidien, pour faire en sorte qu'elles se rapprochent de tout l'univers, on va dire, de programmer, c'est être en maîtrise, de construire les programmes que j'utilise tous les jours, c'est faire des applications qui me parlent et qui répondent à mes besoins, et leur donner progressivement envie de comprendre ce qui se passe derrière la machine ou dans la machine, pour qu'elles se sentent la capacité aussi de se dire je vais être légitime, je vais pouvoir apporter quelque chose et ce sera quelque chose qui au final sera proche de moi et de ce que j'ai envie de créer. Voilà, donc il faut réincarner l'informatique, il faut lui redonner du sens pour que les petites filles et les femmes elles aient envie d'y aller. Voilà, donc tout ce qui peut permettre de leur donner accès à toutes ces applications, tous ces petits jeux pour coder très très tôt, même sans avoir des interfaces numériques, apprendre à coder et tout ce qui est logique le plus tôt possible pour qu'elles se sentent partie prenante de cette histoire, c'est fondamental. Voilà.
Emmanuel, Social Builder, c'est en France exclusivement?
Alors nous, on a, on va dire, 90% de nos programmes sont en France. Et puis après, donc on est partie prenante aussi du Forum Génération Égalité, comme l'a dit Delphine tout à l'heure. Donc nous, on a travaillé sur quel plan d'action et quelles vont être les priorités dans les 5 prochaines années pour l'ensemble des États et des entreprises et des acteurs de la société civile qui vont essayer de converger autour d'actions massives pour les femmes, l'innovation et la technologie. Donc ça, c'est vraiment notre contribution et du coup, associé au Forum Génération d'Égalité, on a un certain nombre de projets, nous. On s'est engagé à monter des actions dans l'ensemble des pays pour mettre en coalition les acteurs dans différents pays et leur permettre de travailler plus intelligemment ensemble autour des priorités de leur pays. Parce que ça, c'est un gros sujet. Il y a beaucoup d'actions, mais elles sont souvent en silo. Les associations travaillent un peu seules, ont du mal à travailler avec des entreprises. Les entreprises n'ont pas la connaissance vraiment, je dirais, fine des publics et de leurs besoins. Il faut arriver à travailler ensemble autour des sujets. Et c'est ce que le Forum Génération Égalité nous a aussi amené à faire. Et c'est ce qu'on essaye d'engager dans différents pays.
Le Forum Génération Égalité, qui est organisé et piloté par Delphine.
Exactement.
OK. Comme ça, les choses sont claires. Et du coup, comment est-ce qu'on fait pour agir, contribuer, nous ici, mais eux aussi là-bas, enfin nous, comment on fait pour contribuer au programme?
Agirait la même chose que Joséphine, ça peut être à tellement de niveaux différents. Déjà, c'est si vous êtes porteur ou porteuse de projet, c'est fondamental que vous intégrez ces questions autour du numérique et de la transformation numérique dans votre réflexion, enfin, quel que soit votre projet, parce que de toute façon, ça va impacter les publics que vous avez envie d'accompagner. Donc ça, c'est la première chose. Moi, je vous encourage à vous intéresser justement à la place des filles, des femmes, seniors ou pas, en emploi ou pas, sur ces questions d'inclusion numérique. Parce que le numérique, ben là, je vous ai parlé de la question de l'emploi, c'est ma petite fenêtre de tir. Mais il y a tous les sujets autour des violences en ligne, de la prévention de ces violences, de l'accompagnement des usages, de l'inclusion des publics les plus éloignés aussi des interfaces numériques au quotidien. Aujourd'hui, en France, si vous n'avez pas utilisé un ordinateur ou que vous n'êtes pas équipé, vous ne pouvez plus accéder à vos droits et aux services publics. Donc, c'est vraiment fondamental et les femmes sont les premières touchées. Donc, il faut vraiment penser, en tout cas, dans la manière dont, si vous êtes un acteur ou une actrice du changement et que vous avez envie de porter ces sujets, voilà, pensez-y. Et après, au niveau de Social Builder, nous, on cherche des... Voilà, avoir des plus de mentors, plus de personnes qui sont de près ou de loin liées au métier numérique. Alors, ça peut être de la communication en passant par, par la data science, pour pouvoir accompagner justement les milliers de femmes qu'on accompagne parce qu'on leur propose des mentors ou en tout cas des professionnels avec qui interagir au quotidien pour que ce soit très concret. Voilà, donc ça, ça peut être une façon de nous soutenir ou en tout cas de soutenir les femmes qui ont des projets.
Merci beaucoup, Emmanuel. Merci. On était jusqu'à présent sur des enjeux plutôt économiques, d'entrepreneuriat, de numérique. Et puis, il y a des enjeux aussi, il y a le domaine politique dans lequel peut-être les femmes seraient ou sont sous-représentées. Kitri, est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire ?
Oui. Oui, c'est pour ça que je suis là.
Ah.
Avant de commencer, j'ai une toute petite question pour vous, si vous voulez bien répondre, et aussi peut-être pour les personnes qui sont derrière l'écran. Est-ce qu'on peut les voir ? D'abord, j'ai une question. La première question, c'est est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont un engagement, je ne sais pas, sur le climat, sur le social, ont déjà fait des marches contre les violences sexistes et sexuelles, ou pour les marches pour le climat, ou contre les violences policières, voilà. Est-ce qu'on peut lever la main ? Ok. Ah oui, c'est impressionnant. Et là ? Ok. Super. Donc, un taux très important d'engagement. Une deuxième question. Qui est engagé en politique, de manière encartée ou non encartée, mais dans le champ politique, se présente aux élections municipales, régionales, aux prochaines législatives ou dans un parti politique? Est-ce que vous pourriez lever la main?
Tadam. Tadam, tadam.
Ouais, bon, voilà. Donc ça, c'est la chose qui m'inquiète le plus. Vraiment. Ça me questionne. Voilà. Ça me questionne, ça m'inquiète. Moi, j'ai 4 enfants, 2 ados, 2 petits. Les 2 ados, ils étaient à fond pour les marches pour le climat, peut-être pour le climat et aussi peut-être pour être avec les potes et chez les cours et rouler des galoches. Mais aussi parce qu'ils sont super conscients qu'il y a une accélération du temps, qu'il y a les rapports du GIEC qui tombent tout le temps et qu'il ne se passe pas grand-chose. Voilà, donc ça devrait nous interroger, nous préoccuper, et je pense que oui, il y a une part de un peu de dégoût, de refus, ou de oh là là, je veux pas du tout être dans ce monde-là, et il y a plein de raisons qui font, on va en parler, hein, des freins à l'engagement politique. Mais il y a aussi peut-être une fausse idée qui dit que dans l'institution, on s'abîme, on se corrompt. Or, une institution, c'est un organisme vivant composé de femmes et d'hommes, de gens, des aînés, voilà, où il y a des usages très anciens, du coup, qui sont devenus certainement un peu inconscients, qui sont complètement, vraiment, ça peut nous rebuter. Or, quand même, encore une fois, c'est un organisme vivant. Et donc, il faut aussi peut-être penser et... revenir à dire, OK, comment est-ce qu'on peut réengager, remettre du flux, du vivant dans ces institutions qui sont fatiguées. En fait, on s'est trompé il y a quelques années en pensant que la démocratie représentative, bah, c'était une fin en soi et que c'est bon, on avait fini le chemin. Or, dans le monde entier, on comprend que voilà, ça ne va pas du tout. En fait, c'est pas la démocratie, c'est un idéal vers lequel on tend et c'est un processus vivant, un processus d'itération. Et là, on s'est reposé sur les vieilles règles du jeu de la Révolution française. Bah, y a quand même beaucoup de choses qui ont changé, et notamment l'apparition du numérique, qui transforme complètement la matrice de la société. Bon, revenons à la question sur exactement voilà, la présence des femmes dans le champ politique, mais j'aurais vraiment ouvert... En fait, la vraie question, c'est la présence des citoyennes, des citoyens dans le champ politique. Et voilà, à force de faire sans les citoyens, finalement, on fait contre eux. Et toutes les grandes transformations qu'on a besoin de voir maintenant voilà, se mettre en œuvre sur le climat, sur les justices sociales et tout, elles ne vont pas se faire simplement parce que les gens ne sont pas associés aux décisions qui les concernent. les femmes, il y a des freins supplémentaires dans le champ politique pour tout le monde, pour tous les citoyens. On est assez malheureux de cette éprouvée démocratique très pauvre qui consiste à mettre un bulletin dans l'urne une fois de temps en temps et de ne rien pouvoir dire après. Mais pour les femmes, il se passe des trucs. C'est qu'il y a des femmes qui s'engagent, il y a des jeunes qui s'engagent, il y a des personnes qui s'engagent et en fait, elles viennent. Et quand on s'engage en politique, on veut servir son pays. Alors après, on choisit un endroit qui nous convient plus ou moins. Et en fait, il se trouve que ça se passe en général assez mal. Et c'est un problème. Aujourd'hui, le constat, c'est que la chaîne de commandement politique française, du président de la République au Premier ministre, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, à tous les chefs de parti, excepté une héritière, sont des hommes. Il y a eu, c'est en 2017, un grand avènement de la société civile en politique. Donc, quantitativement, il y a vraiment une amélioration, notamment à l'Assemblée, notamment dans le gouvernement plutôt paritaire. Mais en termes d'influence, d'impact de ces femmes, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Moi, quand je regarde la mandature d'après, hein, je ne parle pas d'idéologie, là, hein, je parle juste d'impact et d'influence. Il y avait des grandes voix dans le précédent gouvernement. Il y avait Christiane Taubira, il y avait Cécile Duflot, il y avait Najat Vallaud-Belkacem, il y avait Axelle Lemaire. Aujourd'hui, dans ce gouvernement actuel, on a l'impression que les femmes issues de la société civile dans le gouvernement, elles ont beaucoup souffert, en fait. Déjà, habituellement, elles souffraient déjà, hein, c'était compliqué. Hein, la plupart des anciennes ministres sont sorties dans l'ancienne mandature sur des désaccords, donc c'était déjà compliqué. Là, on voit aussi que la société civile dans un gouvernement, c'est bien, mais quand on regarde le gouvernement, les hommes sont plutôt issus de partis politiques, quasiment tous, ou en tout cas ont des énormes réseaux, donc sont capables d'entamer un rapport de force, si tant est qu'en tant que ministre en France, on peut faire un rapport de force, mais en tant que femme, c'est vraiment compliqué, parce qu'on débarque là, on n'a pas de réseau, on ne peut pas faire front, on ne peut pas dire, attention, si je ne gagne pas mon arbitrage, je vais mettre 500 maires qui vont venir te faire suer, par exemple. Bref. Et donc, il y a vraiment cette question de plus de femmes, super, mais pour faire quoi? Et surtout, si c'est pour aussi ne pas être... et ça concerne tous les élus en général, c'est dire on a un problème de démocratie représentative. Comment est-ce qu'on véhicule des nouveaux visages, amène aussi des pratiques différentes, associe les habitants, les habitantes aux décisions qui les concernent. Donc, sur ce constat, là aussi, pas très chouette, hyper inquiétant. En fait, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est plutôt ce que vous venez de dire en premier, que la question des femmes en général. Oui, il y a des freins spécifiques à l'engagement des femmes. Ils sont très simples. Hein. C'est d'abord, c'est nos grands-mères qui ont obtenu le droit de vote il n'y a quand même pas très longtemps. Et elles sont arrivées dans un jeu qui était déjà complètement dessiné. C'est-à-dire que les règles du jeu politique, elles ont été dessinées alors que même on n'avait pas du tout le droit de vote et qu'on n'a pas participé à designer ces règles du jeu politique. Donc voilà, on va parler du patriarcat peut-être, on n'est même pas obligé de le détailler. Ces codes, ce rythme de la vie politique, ces réunions le soir, ces réunions le week-end, cette injonction à la vie militante permanente ont été construites. Ça devient assez anachronique. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable ni pour les femmes ni pour les hommes. Si on veut une égalité aussi dans le foyer et une égalité devant l'engagement au service de la société, une égalité dans le travail, il va falloir aussi qu'on se répartisse mieux le temps qu'on peut consacrer à la vie citoyenne. Un autre frein très important, le cyberharcèlement. Aussi étrange que ça puisse paraître. Aujourd'hui, dans le monde entier, il y a des phénomènes de cyberharcèlement par vagues organisées contre la voix de femmes militantes, activistes sur le terrain, qui se prennent des monceaux, d'attaques vraiment organisées, et qui tend à silencier ces voix des femmes. C'est vrai dans le champ activiste, c'est aussi vrai et encore plus vrai dans le champ politique, ce qui pose vraiment la question de la place des femmes dans le débat public et notamment à travers les réseaux sociaux. Ça, c'est un des freins majeurs aussi. Et puis, il y a la méconnaissance du champ politique. Alors, les politiques, les partis politiques, enfin, tout ce qui a construit notre vie politique d'aujourd'hui, on ne comprend pas très bien comment ça marche. Déjà, pour jouer au football, il faut connaître les règles du football. Là, c'est un peu la même chose dans la démocratie. Il faut connaître comment marche une institution. Il faut aussi comprendre comment ces usages dans les partis politiques. Chaque parti politique a des différences, des modalités d'investiture, de sélection, de financement, de machin. Et tout ça est très... un peu opaque, en fait. Donc, on ne comprend même pas à quoi on joue. Et puis, il y a cette fameuse règle des quotas qui est en soi une vraie super belle amélioration. On voit aussi qu'aujourd'hui, il y a comme Delphine le soulignait tout à l'heure, il y a des partis politiques qui payent des amendes à chaque élection parce qu'ils n'ont pas paritaire et ça fait partie de leur budget. OK, super, on en est encore là. Et puis aussi, donc, il y a ce phénomène des quotas qui est vraiment hyper important et qui va améliorer les choses, c'est sûr, mais qui, parfois, parce qu'on est en fait dans l'entre-deux générations, on reproche à des femmes en disant oui, mais toi, tu es là parce que voilà, tu as été élue, tu es sur une liste, mais toi, tu es là parce que tu as un quota, en fait. Il fallait bien remplir les trous. Là, là. Bon. Donc, tout ça met du temps et ça n'est pas grave et on y va. Et justement, c'est comme ça et c'est mieux. Et forgeons-nous une expérience. Mais si ces femmes arrivent et repartent juste la mandature d'après parce que ça a été un enfer à vivre pour elles, on a tout perdu. Et en fait, il y a quelques mois ou années, l'idée, c'est de dire, en fait, je voyais donc toutes ces femmes, ces jeunes, dans toutes les manifs, voilà, mais à fond, engagées au service de la société. Et je me disais, mais en fait, il n'y a pas de passage du tout en politique. C'est vraiment chaud. Et donc, je me disais, mais en fait, il manque un truc, il n'y a pas eu de transmission de l'expérience de femmes dans le champ politique. C'est-à-dire qu'il y a un boulot qui n'a pas été fait. Il ne peut pas y avoir de relève si le réel de ce qui se passe en politique n'est pas reconnu et n'est pas transmis. Quand vous arrivez en politique, c'est une décision intime, impersonnel, enfin tout à fait personnel, et on n'arrive pas en groupe dans un parti politique, on n'arrive pas en groupe à une élection, enfin voilà, c'est vraiment de ce, voilà, et quand on arrive, on est tout seul ou toute seule, et on est dans une maison qui a des usages inconscients, qui sont là depuis des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années, et qui ne se perçoit même pas la violence intrinsèque qu'il y a dans ce parti politique. Et donc, évidemment, on ne peut pas changer une machine toute seule. En fait, voilà. Et d'abord, il y a la question de comment est-ce qu'on reconnaît ces femmes. Donc, c'était le travail dans le cadre d'Investis, c'est-à-dire...
Alors, attends. Ouais. Attends,
j'ai sauté une étape.
Moi, je ne sers plus à rien, je ne pose plus de questions. Là, t'enchaînes, voilà. Alors, attends. Donc, les constats sont là, ils sont bien posés. Comment on fait? On ne peut pas y aller toute seule. Comment on fait? Et c'est là que les Investis débarquent. C'est ça? Allez. Enfin, c'est important quand même de ponctuer un peu le...
Merci. Belle transition. Et donc, Investis, donc, c'est un parcours de femmes qui était temporaire, mais je vais revenir sur le début. En gros, l'idée, c'était de dire, OK, ce qui se passe en politique n'est pas dit, n'est pas raconté. On le voit, des femmes extraordinaires qui quittent la vie politique. On voit bien que ça a été extrêmement douloureux. Mais ça n'est pas dit, et c'est un peu le truc des grand-mères, en fait, à l'époque, voilà, des cercles de grand-mères qui se donnent leurs recettes, qui s'entraident, qui se disent le réel et qui se soudent et tout. Ben là, c'est un peu la même chose, c'est de dire, OK, il va falloir organiser cette transmission. Et donc, l'idée, c'était d'aller appeler celles qui étaient passées par la politique, qui avaient une grosse expérience, et dire, venez raconter ce qui s'est passé pour vous, dans votre parti, dans le ministère, à l'Assemblée. Voilà, dans un cercle très protégé, dans Investis, il n'y avait rien qui était filmé, capté, on était vraiment dans des échanges entre femmes. Pour se dire le réel. Et donc, on a travaillé d'abord pendant le premier confinement. Merci. Pour le coup, le Covid nous a permis ce moment hors du temps de prendre le temps, d'abord en une à une, pour celles qui étaient déjà passées en champ politique, de pleurer un bon coup, de réaliser au fur et à mesure que chaque mot qui était dit par une femme avait été vécu par une autre, donc commencer à dire, oula, en fait, ce n'est pas forcément moi le problème, de le reconnaître ensemble, de dire, voilà, les expériences de femmes en politique, elles sont exactement similaires. Elles ont toutes été victimes de sexisme, de harcèlement sexuel. Enfin, pas toutes, hein, heureusement, mais 44% sur l'étude qu'on a fait sur 1000 femmes, 44% ont été victimes de violences sexistes, sexuelles, discriminatoires. 33% en ont été témoins. Donc, on imagine vraiment la raison importante pourquoi ça ne donne pas du tout envie et pourquoi est-ce qu'on ne veut pas être associé à ça ou subir ça. Et donc, c'était vraiment important de dire, en fait, quand on a eu un engagement politique, ce n'est pas forcément moi le problème. En fait, on a toujours l'impression, en fait, c'est moi qui suis trop sensible, c'est moi qui suis trop fragile, je ne suis pas faite pour ça et tout. Puis au fur et à mesure, on se dit, non, c'est un problème systémique. Si tout le monde vit ça, si chacune a vécu ça, c'est qu'il y a... Donc déjà, rien que le fait de le poser et de le reconnaître, waouh, ça change un peu la donne. Et dire, en fait, donc cet endroit est dysfonctionnel, donc ces problèmes doivent être pris en charge. Sinon, ce sera exactement la même chose dans un an, dans deux ans, dans 10 ans. Et donc, chacune et chacun qui allait vous engager, vous verrez exactement la même chose, ça ne s'arrêtera pas. Donc, ça, c'est la première étape, reconnaître. Mettre sur la table, reconnaître collectivement et dire, OK, on adresse ces freins et au fur et à mesure, on va quand même les dépasser. Et après, c'était donc simplement dire, on ne va pas parler que des freins parce que sinon, on fait aussi augmenter la peur, hein. Mais on va se mettre en capacité, on va travailler et dans ce travail, tout d'un coup, on va voir ces freins, ils vont sauter les uns après les autres. Simplement parce qu'on les a reconnus et puis qu'on va adresser quelques réponses qui ne sont pas parfaites, mais qui... Et donc, là, on est parti sur un programme de 9 mois. Attention.
Moi, j'ai une question.
Ouais.
Donc là, vous êtes plusieurs. Vous êtes... donc, c'est pendant le confinement. Vous êtes plusieurs à faire les mêmes constats. et à vouloir agir. Donc, vous vous retrouvez en visio, j'imagine, etc. Est-ce que vous savez déjà là que vous allez travailler dans le cadre d'un programme qui s'appelle Les Investis ou pas du tout? Vous êtes plutôt dans le design, la conception, la réflexion autour de ces enjeux. C'est ça, hein? Au début, vous êtes combien?
On est une vingtaine.
Vous êtes une vingtaine.
Moitié des femmes qui sont déjà passées par la politique, donc du coup, qui vont transmettre cette expérience de ce qui se passe dans le champ politique, et pour moitié, des femmes extraordinaires qui sont des plaidoyeuses d'ONG depuis 20 ans, 15 ans, 10 ans, qui donc du coup ont deux grandes forces. D'une part, elles sont expertes et super fortes sur une thématique climatique, sociale ou je ne sais pas quoi. Et en plus, elles connaissent les institutions par cœur. Donc, parce qu'elles font du plaidoyer. Donc, la loi, ça les, enfin, c'est leur champ d'expertise. Et donc, ces femmes, quand on les appelle en disant « Bon, OK, ça fait 20 ans que tu fais ça, est-ce que tu n'es pas épuisée d'organiser des manifs, des pétitions et des machins, tu ne voudrais pas passer de l'autre côté de la barrière ?» La réponse est non. Donc ça, c'est un problème. C'est-à-dire qu'on gagnerait vachement de temps à ce que ces femmes aillent exprimer leurs expertises à l'intérieur d'institutions et faire le lien aussi avec la société civile organisée. Bon. Et donc, on travaille à 20 comme ça, et puis on se dit, OK, on y va, on lance ce petit programme, on l'élabore ensemble, et donc du coup, c'est en gros 9 mois. Qui a dit 9 mois tout à l'heure de programme?
Je ne sais plus. Je ne sais plus, mais...
C'était tout à l'heure, sur les audacieuses peut-être.
Mais du coup, donc, vous êtes là, donc c'est la cooptation, c'est... tiens, je connais une telle qui fait ça, qui serait peut-être intéressée, etc. Et donc, vous faites des réunions. Alors, tu as évoqué les réunions. Tu ne l'as peut-être pas dit d'ailleurs, tu n'as peut-être pas lâché le mot tupperware. Tu l'as dit, je ne sais plus ce que tu as dit.
Oh là là.
Tu l'as dit, tu l'as pas dit ça,
hein? Je ne l'ai pas dit, je ne l'aurais pas dit.
Tu ne l'aurais pas dit, c'est ça. Hein, c'est ça. Donc, c'est une réunion de grand-mère alors, non?
Oui, c'était un peu.
Parce que moi, ma grand-mère faisait des trucs comme ça.
Oui. Pour
ça. Donc, j'ai vu le truc. Je suis un peu désolé. Hein.
Non, il n'y a pas de problème. Temps, vraiment, c'est bien. Tout va bien.
Voilà, c'est bien. Et du coup, vous vous retrouvez ensemble et vous dites, il faut qu'on agisse. Et donc, on conçoit un programme pour agir en sens. Et donc, vous investissez toutes les 20 ensemble là-dedans, c'est ça, hein?
Exactement. Et en fait, on fait par bouche à oreille. On ne fait pas un casting magique en faisant des annonces et tout ça. Non, c'est petit bouche à oreille. On sait qu'on ne va pas changer la face du monde, mais ce petit bouche à oreille où chacune va ramener 2-3 personnes qu'elle connaît, 2 femmes. Vraiment, le seul préalable pour entrer dans la promo, c'était d'avoir un engagement associatif. L'idée, c'était de dire, tant qu'on n'est pas engagé, on n'a pas le temps là, il faut qu'on prépare cette mandature 2022-2027. Et donc, repartir de aucune expérience en collectif, le nous, le jeu, la gouvernance, le machin, il faut déjà avoir un peu essuyé les plâtres, un peu avoir géré aussi ces questions d'ego dans le collectif. Et là, on peut bosser. Et sachant que c'était aussi partir avec ces femmes, peu importe leur âge, hein, il y avait vraiment de tous les âges, avec un certain degré de maturité sur le collectif, en pensant qu'elles, plus tard, si elles s'engagent, elles vont aussi prendre dans leurs équipes justement des plus jeunes, qui se sont moins frottés aux difficultés de la vie en collectif. Et donc, on atterrit en bouche à oreille comme ça à un groupe. Au début, on devait être 30, et puis on a fini à 60. Enfin, en vrai, au premier week-end, on est 74, mais entre celles qui ont changé de vie, déménagé, changé de boulot, grossesse, voilà, donc ça c'est la vie des collectifs de femmes. Et donc on a toute l'année bossé à 60 femmes, donc pendant 9 mois sur 5 week-ends de pratique politique, une fois toutes les 6 semaines à peu près, plus des ateliers pair à pair où chacune de ces femmes apprenait aux autres ce qu'elles savaient faire dans la vie engagée, et des expertes et des experts, enfin que des experts d'ailleurs, 100% de femmes qui sont venues nourrir le programme étaient des femmes. C'était important pour nous d'aller chercher, y compris quand des thématiques qui sont très cachées dans le champ politique, c'est le financement, l'analyse électorale et des trucs comme ça, c'est franchement une galère de trouver des gens, des femmes dessus. Donc on a quand même tirer le fil, il y a forcément des femmes qui bossent dessus, et donc c'était important pour créer aussi ce maillage qui va pouvoir servir tout au long de la vie engagée dans le champ politique de ces femmes. C'était une super expérience, on a bossé comme des folles. On sait qu'on était très chanceuses parce que ça s'est un peu fait par bouche-oreille, donc un peu par hasard quand même, et puis il n'y avait pas de procédure de oui, non, machin, c'était voilà, on embarque, puis à un moment on a fermé parce qu'on savait qu'on ne pouvait pas non plus travailler sur un trop grand groupe. Et donc on a pris en note, comme des bonnes femmes appliquées. On a pris en note de manière collaborative tout ce qu'on apprenait ensemble en se disant on a tellement de chance d'être là qu'il va falloir qu'on puisse le partager avec d'autres femmes qui elles-mêmes s'organiseraient en cercle, qui elles-mêmes pourraient prendre en main la question de leur place dans le champ politique légitime. Et donc, on s'est dit, voilà, voilà, vous connaissez ça par cœur, hein, c'est les Creative Commons, c'est vraiment le partage de la connaissance. Et donc, on a sorti la semaine dernière un petit manuel qui est un cadeau pour vous. Il n'y a pas de genre dans les lecteurs de ce truc hein, qui est fait pour vivre et pour se transmettre. Et donc, du coup, c'est 307 pages, 13 pages sur... Voilà, comment on fait pour faire campagne, des trucs très basiques, mais aussi comment est-ce qu'une fois élu, on peut être dans la transformation de l'intérieur de l'institution, c'est-à-dire que c'est super des nouveaux visages, mais encore une fois, si c'est pour reproduire exactement les mêmes codes, ça ne sert vraiment à rien. Et donc, du coup, dans la promo, il y avait des femmes, par exemple, qui ont fait la Convention citoyenne pour le climat ou qui ont été dans les Gilets jaunes ou sur le jugement majoritaire ou sur les budgets participatifs ou sur une expérimentation comme Ma Voix. Donc, on s'est vraiment nourri au fur et à mesure sur la posture. On s'est aussi formé sur la déontologie, la prévention des conflits d'intérêts, la transparence. Enfin, voilà, c'était comment est-ce qu'on peut faire un peu mieux et déclencher une autre façon, parce que voilà, c'est la question du pouvoir, c'est la question du pouvoir, de la puissance, on est là pourquoi, et comment est-ce qu'on grimpe aussi avec cette volonté d'embarquer les citoyens et les citoyennes dans les enjeux qui les concernent.
Ça veut dire, Kitry, que là, téléchargeable sur Internet, parce que j'imagine que tu n'as pas ramené 50 exemplaires
de ce document de 300 pages. Trop d'arbres morts.
Voilà, ce n'est pas possible. En revanche, là, téléchargeable sur Internet, on peut télécharger ce document qui s'intitule comment ?
Alors, c'est donc sur le site investi.fr, et en une, vous avez le livret. Et donc, il est écrit en français. On ne l'a pas traduit. Donc, il y a quelques pages qui concernent spécifiquement la France sur la réglementation électorale, voilà. Mais tout le reste, c'est vraiment déclinable à l'envi, vraiment dans chacun et chacune des pays. C'est une question, évidemment, la place des femmes dans le champ politique, c'est une question tout à fait mondiale et internationale. Et donc, voilà, donc ça peut aider. Et notre conseil, c'est de dire, nous, on n'est pas une école. Il y a d'autres programmes qui existent, hein, Tous élus, Open Politics, l'Académie qui est en train de sortir d'Alice. Enfin, voilà, il y a beaucoup de programmes. Enfin, on se saisit de cette question. Si on ne forme plus dans les partis politiques, ce qui manifestement est le cas des futurs responsables politiques, bah, du coup, comment de façon externalisée, d'ailleurs, c'est assez chouette de le faire en dehors du champ traditionnel politique. Et voilà, Investi, on a choisi de ne pas l'instituer parce qu'on pense que c'est aussi important de créer le cercle, de se coopter les unes les autres et de faire l'expérience de notre propre leadership et gouvernance ensemble pour monter le programme à partir de nos besoins réels, plutôt que de le faire de manière descendante. Voilà, on part des besoins, on exprime les besoins, on exprime les peurs, les freins, les machins, bim, on les prend en charge et hop, on déroule un programme et on le fait ensemble. Il y a des femmes, par exemple, à Nantes, qui ont dit « Ouais, on aimerait bien faire ce programme, mais plutôt local, pour investir notre place sur toutes les élections au niveau local. » Ben voilà, elles s'emparent de ce qu'on a fait, qui est vraiment, il reste des coquilles certainement, c'est pas parfait, mais voilà, l'idée c'est qu'elle puisse elle-même s'en servir, gagner du temps, mais aussi l'enrichir et l'abonder avec leurs propres rencontres sur le local. Il reste quand même un lien entre ces 60 femmes, c'est l'idée, c'est qu'on se retrouve une fois par an après les échéances électorales de l'année, donc à la fin de la promo, là, il y a donc on était 60 sur 60, c'était vraiment non, quasiment pour la plupart d'entre elles au début du programme. Non, je n'y vais pas. Et là, le challenge, c'est de dire, OK, on chemine, on discerne, on fait le parcours. Et si à la fin, il y a un non, il n'y avait aucune injonction à s'engager à quoi que ce soit, mais c'est un vrai non. C'est un vrai non construit pour des bonnes raisons, pas pour des mauvaises raisons, parce que je ne comprends pas, parce que je ne sais pas, parce que j'ai peur. Voilà, on sait pourquoi on dit non. Et puis le non, il n'est jamais toute la vie aussi. Voilà. Et donc, à la fin du parcours, les 80% des femmes de cette promotion ont dit, OK, moi, c'est sûr que dans cette prochaine mandature, je m'engage à un moment ou à un autre. Alors, ce sera peut-être sur les législatives, parce que c'est OK pour moi d'aller sur scrutin très, très casse-gueule. Donc là, il n'y en a que moins de 10. Et en vrai, je pense qu'il y en aura 5 qui iront jusqu'au bout, parce que c'est un scrutin uninominal. C'est la troisième mi-temps des présidentielles. C'est hyper cher, hyper complexe. Enfin, bon, bref. Mais en revanche, il y en a plein d'autres qui ont dit OK, moi, un scrutin lisse aux européennes, pour celles qui ont un gros bagage, elles y vont. Les autres, ce sera des régionales, des municipales, des départementales. Et c'est trop chouette. Et l'idée, c'est que chaque année, on se retrouve à la fin de l'année, en juin, juillet, après les échéances, celles qui sont aller sur ces échéances, monter en première ligne, disent voilà, ce qu'elles ont réussi, ce qu'elles ont raté, ce qui était difficile, ce qui était facile, ce qu'elles ont mis en œuvre, transmettre ça aux filles qui vont se lancer sur l'échéance d'après. Et évidemment, le manuel, on va aussi l'augmenter et partager ce qu'on a appris chaque année. Voilà.
OK. Merci, Kitry. Bravo. Bravo. Donc là, on est vraiment sur la préparation du mandat 2022-2027. Hein. OK. Et donc, avec ces réunions, une fois l'an, vous allez vous retrouver et est-ce que du coup donc vous allez vous présenter, parce que je crois que s'il y a le taux de 85%, hein, c'est ça, des investis qui vont du coup y aller, se présenter, est-ce que Alors, vous ne constituez pas en partie, puisque vous ne vous instituez pas, mais vous allez être représentative de l'échiquier politique, ou vous serez plutôt sans étiquette ou...
Alors, dans la promo, c'était le champ de force progressiste. Donc, l'idée, c'était de nourrir une alternance politique. Ça, c'est la première chose. Donc, du coup, il y avait sur 60 femmes, un quart de la promo qui était encartée, Europe Écologie Les Verts, PS, Génération, Les Radicaux de Gauche, France Insoumise. Et dans les expertises aussi, c'était ce champ de force progressiste avec aussi des personnes qui, comme Paola Forteza, par exemple, était chez En Marche et est venue et sortie de ce groupe-là. L'idée, c'est qu'il n'y avait là aussi aucune injonction. Enfin, l'idée, ce n'est pas de recréer justement une machine. Non, l'idée, c'est de dire chacune est souveraine. Plus on partage, plus on sait ce qui se passe ici et là et machin et comment ça se danse, plus on se renforce, plus aussi on peut s'entraider en dehors des partis politiques. Et donc là aussi, c'est chacune est libre d'y aller comme elle sent qu'elle doit y aller, peut-être dans un parti politique, peut-être avec des multi-investitures, c'est le challenge, ou alors complètement en dehors des partis politiques. Voilà.
Okay. Lesinvestis.fr.
Oui.
Ça.
Oui.
Pour télécharger. Comment ça s'intitule, répète, comment ça s'intitule le document?
Ah bah c'est en une, hein, c'est le livret ou je sais pas.
Le livret. Voilà, le livret. Pour c'est télécharger.
Et tu me poses pas la question de comment agir ?
Ce sera posté. Ouais. Oh, ouais. Super, super, super. Merci, merci Astrid. Et du coup, qui traite comment agir ?
Ouais. comment agir ? Vraiment réfléchir à cette question de l'engagement politique, encore une fois, ça fait très peur, mais en fait, c'est juste la vie. Hein. C'est se détendre aussi, c'est faire une expérience. À l'époque, moi, j'étais engagée 6 ans, j'ai appris beaucoup de choses, ça a été très douloureux. Franchement, je n'avais jamais vu ça de ma vie. L'endroit où on doit décider des règles de vie commune, un endroit où il n'y a pas de règles. Et donc ça, c'était vraiment très impressionnant, en fait, et un peu flippant. Mais c'est aussi faire son expérience. Et idéalement, la vie politique, c'est des allers-retours entre la société civile, la vie économique, l'engagement au service de la société, et puis un retour, et puis... Enfin, voilà, tout va bien, quoi. Et ça fait partie... Enfin, pour moi, ça fait partie de la vie. Si vous avez l'occasion de faire des campagnes, il n'y a jamais de bonnes ou mauvaises décisions, mais allez-y, enfin, allez coller des affiches, allez faire des réunions collectives, des réunions publiques, prendre la parole. Enfin, la démocratie, c'est le seul endroit où on voit des gens qu'on ne verrait jamais autrement. On est tous dans des silos, la vie associative, oui, on voit plein de monde, mais on voit quand même des gens qui sont d'accord sur le même truc, alors que le débat démocratique, vous retrouvez sur des places, dans des salles, enfin, c'est trop beau, quoi, en fait. Donc, il faut y aller. Mesdames, petit point pour vous, allez-y. Et allez-y, groupez, vraiment. Et messieurs, si vous voyez vos sœurs, vos collègues, vos amis, vos copines, engagez-vous aussi, bien sûr, mais si vous voyez certaines de vos proches, encouragez-les, soutenez-les. On a vraiment besoin que des femmes investissent le champ politique. On a besoin d'elles parce que juste, elles n'ont pas été trop dans ce bain-là et que ce serait une super chance en fait, d'en avoir plus. Et elles pourront faire justement l'ouverture des portes pour que les citoyens et les citoyennes, si elles règlent les problèmes qu'elles ont pour leur engagement politique, elles vont régler les problèmes pour tous les citoyens. Donc, on a vraiment intérêt à ce qu'elles y aillent.
Super. Voilà. Merci Kitri, merci Emmanuel, merci Joséphine pour ce super panel. On peut vous applaudir, super. Merci, merci beaucoup, 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 beaucoup. On va jeter un œil. On jette un œil sur le Slido. Il est là, le micro, Rudy. Il est à côté de Delphine.
Ouais. Est-ce qu'on peut afficher le Slido? Alors, on va faire une pause juste avant de partir en pause et d'enchaîner sur le débat participatif. Il y a 2 questions et je pense qu'on peut y répondre très rapidement si ça ne vous pose pas de problème. Est-ce qu'il existe des pays, communautés qui favorisent plus les femmes ou qui sont plus matriarcales que patriarcales? Si oui, ne pourrait-on pas s'inspirer d'eux? Je pense que Delphine, vous pourriez peut-être éclairer sur cette question-là. Et puis, une question et une réponse rapide. Est-ce que toutes les couleurs sont représentées dans votre groupe de femmes? Et je pense que ça s'adresse à Guitry.
Je voulais juste signaler pour Kitri et pour tout le monde qu'il y avait aussi un commentaire tout à l'heure. Alors c'est Anonyme qui disait « à bas le patriarcat ». Je suis assez contente. parce que vous ne l'avez pas vu comme vous y étiez.
Non, on le connaît, Anonyme.
Existe-t-il des pays, communautés qui favorisent plus les femmes, qui sont plus matriarcales que patriarcales? Alors, je ne connais absolument pas toutes les communautés dans le monde. Oui, il existe quelques communautés historiquement matriarcales. En revanche, tous les pays aujourd'hui sont à la traîne sur l'égalité femmes-hommes. Je l'ai dit tout à l'heure, aucun pays n'est parfait. Même les pays qui, on va dire, trustent les premières places de tous les classements internationaux, je pense évidemment aux pays scandinaves et aussi au Canada, sur les questions d'égalité professionnelle, etc., ne sont pas toujours parfaits, comme je le disais tout à l'heure, sur d'autres sujets, notamment sur la lutte contre les violences. Alors, si oui, ne pourrait-on pas s'inspirer d'eux? Donc, il n'y a pas un pays ou une communauté à mettre en exergue. En revanche, on fait beaucoup aujourd'hui dans la diplomatie, la communauté internationale, on s'appuie beaucoup sur un système de comment est-ce qu'effectivement on peut s'inspirer des meilleures lois. Et par exemple, il y a 2 ans, en 2019, la France avait la présidente du G7. Je pense que vous savez ce que c'est que le G7. Et on a mis en place ce qu'on appelle le partenariat de Biarritz, tout simplement parce que le G7 avait lieu à Biarritz. En fait, un groupe de travail, une trentaine de personnalités expertes d'égalité femmes-hommes ont travaillé pour faire une sorte de recueil des lois les plus avancées, les plus progressistes en matière d'égalité femmes-hommes dans les pays du G7 et un petit peu au-delà. Donc, on a regardé en France quelles sont les meilleures lois qui ont vraiment fait bouger les choses aux États-Unis, en Chine, en Allemagne, etc., en Grande-Bretagne. Et on a fait un recueil avec une soixantaine de lois. Et en fait, on a demandé ensuite à d'autres États de rejoindre ce partenariat en disant, eh bien moi, par exemple, Thaïlande, je vais m'inspirer de la loi française sur les quotas dans les conseils d'administration et je vais la dupliquer, évidemment, dans des circonstances nationales complètement différentes. Moi, Kenya, je vais m'inspirer de telles lois mises en place en Nouvelle-Zélande et la mettre en place à mon niveau national, etc. Donc, il y a un peu de l'émulation dans ce sens-là.
Merci beaucoup. Kitri, est-ce que tu veux répondre à la question sur les couleurs politiques dans votre groupe de femmes?
Dans cette promo, c'était vraiment le champ de force progressiste qui souhaite une alternance politique, en gros en désaccord sur l'exercice du pouvoir d'un homme seul qui décide pour tout le monde pendant 5 ans, et donc un changement démocratique profond, mais aussi sur les thématiques sociales et environnementales où ça ne va pas assez vite. Et donc du coup, dans la promo, je vous l'ai dit, un quart des femmes étaient encartées. Du coup, elles pouvaient apporter le réel de chaque parti, ce qui était super intéressant, et 3/4 complètement non encartés et a priori qui ne prendra pas sa carte. Parce que, voilà, ce qui n'empêche pas d'être candidate et candidat, vous savez que toujours les partis à la dernière minute, justement pour ces histoires d'amende, vont chercher des super profils de femmes extraordinaires qui ont un crédit très fort dans la société. Et là, le problème, c'est qu'en général, ça se passe mal parce qu'elles ne savent pas quels sont les codes, elles ne savent pas comment être autonomes aussi et ne pas subir une communication du parti ou je ne sais pas quoi. Et donc, du coup, elles ne sont pas dans leur pleine puissance et tout ça. Et donc, c'est ça qu'on essaye de réparer. Mais voilà, c'était le champ de force progressiste et cette question de la société civile en politique qui est vraiment une chose tout à fait souhaitable, mais encore, je pense que rien ne remplace l'expérience. Je ne vous dis pas qu'il faut se former pour être élu du tout, hein, pas du tout. C'est juste aborder cette question-là et se mettre en capacité d'avoir de l'influence, d'avoir de l'impact et tout, ça se prépare un peu. Voilà. Mais il ne faut pas être formé pour les politiques aujourd'hui élus, ils n'ont pas reçu une formation. Et c'est très bien, on est citoyen et citoyenne, on est égaux, on peut être élu et c'est parfait. Après, c'est comment est-ce qu'on se met en capacité de peser. Et donc ça, c'est forcément du collectif.
Merci beaucoup. Eh ben, on va faire une petite pause. Je profite, parce que la pause, c'est aussi le moment de networking, pour vous dire qu'on a ouvert le groupe LinkedIn. Donc, vous pouvez retrouver tout le monde sur LinkedIn. Enfin, en tout cas, tout le monde va se retrouver sur LinkedIn. Il y a OFQG Numérique aussi hein, qui est ouvert et vous allez pouvoir retrouver notamment la plateforme des investis. On va poster dessus. Et le nom du groupe LinkedIn, c'est très original, c'est Rencontre de l'innovation sociale francophone. Voilà. Tout de suite après la pause, on va passer un temps de participatif. Le tabouret, il est là. Vous allez devenir intervenant aux côtés des intervenantes. Et on va commencer par des interventions à distance et par Yao. Yao, si tu nous entends, prépare-toi. Prends un petit café d'abord et puis prépare-toi à intervenir à la reprise. Merci beaucoup. On se retrouve dans 10 minutes. Merci.